On va parler aujourd'hui de la Teshuvah, puisque nous sommes pendant la Seret Yimei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, de retour vers Hachem, et on s'approche de Yom Kippour. Et à ce propos, il y a une question très simple qui se pose, que je pense qu'on devrait tous se poser. Comment fonctionne la Teshuvah? Est-ce qu'il y a des conditions requises pour que la Teshuvah soit acceptée? D'abord, pourquoi tu veux que Dieu me pardonne? Je veux dire, de quel droit je viens voir Dieu? J'ai fait le malin toute l'année, et je viens voir, je fais le beau pendant un jour, je dis, bon, bah, tu me pardonnes maintenant. Attendez, monsieur le ministre, pour la question.
D'accord.
D'accord? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? D'accord? Bien sûr qu'on ressent tous que ce jour, le jour de Yom Kippour en particulier, la Seret Yimei Teshuvah, mais le jour de Yom Kippour, est un jour qui est très grand, est un jour qui est très élevé, est un jour qui est extraordinaire, au point que même les Juifs qui sont malheureusement loin, pour l'instant, de la Torah et des mitzvot, personne ne reste insensible au jour de Kippour. Mais on aimerait trouver des mots pour expliquer qu'est-ce qui se passe au jour de Kippour. Ça veut dire, au lieu de dire, bon, ben, c'est juste un jour, c'est un jour dans lequel l'âme se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, j'aimerais, dans le cours d'aujourd'hui, essayer de donner des mots pour expliquer qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour, comment ça se fait que ce jour-là, on a envie de revenir vers Dieu, comment ça se fait que ce jour-là, Dieu nous pardonne, peu importe si on s'est bien comporté pendant l'année ou on ne s'est pas bien comporté pendant l'année. Et surtout, la grande question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a des prérequis, est-ce qu'il y a des conditions pour que Dieu accepte notre Teshuvah? Imaginons quelqu'un, par exemple, il n'a rien fait pendant le mois d'Eloul. Il n'était même pas à la synagogue Rosh Hashanah. Et toute cette semaine, il a glandé. Et il arrive, comme une fraîcheur, à Kippour, à la Nehila. Qu'est-ce qui se passe avec un juif comme ça?
Il est frais. Hein?
On l'appelle le juif de Kippour. Oui. Comment ça fonctionne? Alors je sais que vous allez me répondre que vous avez assez fréquenté un Beit Rabat pour dire qu'on l'accepte et Kippour marche pour lui. Mais la question c'est pourquoi ça marche? C'est pas cohérent, c'est pas normal. Enfin, un système. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de prérequis. Comment ça fonctionne? Alors pour répondre à cette question... Attendez, doucement. Pour répondre à cette question, d'abord je mets le décor en place. Après, les questions avec plaisir. Pour répondre à cette question, pour commencer même à ouvrir le débat, d'accord? Alors, on va amener une Gemara dans le traité Shavuot, dans la référence numéro 1. Et là, vous allez voir qu'en vérité, c'est une question qui n'est pas simple du tout. C'est une marloquette entre deux grands sages dans le Talmud. D'un côté, il y a Rabbi Yehuda Anassi, qui est le compilateur de la Mishnah, très grand maître. Et de l'autre côté, il y a les sages, qui n'étaient pas d'accord avec lui, plusieurs sages. Ils n'étaient pas d'accord sur la façon comment fonctionne la Teshuvah. Est-ce que la Teshuvah marche dans tous les cas, ou est-ce qu'il y a un prérequis? Est-ce qu'il y a une condition?
C'est la façon de la définir.
On va voir tout de suite. Non, c'est pas sur ça la marque. On va lire dans les mots. Donc c'est la Gemara dans le traité Shavuot. Rabbi Omer, Rabbi Yehuda Anassi dit, Al kol averot sheba Torah, sur toutes les averot de la Torah, ben asat Teshuvah, ben lo asat Teshuvah, peu importe que la personne ait fait Teshuvah ou qu'il n'ait pas fait Teshuvah, Yom HaKippourim Mechaper, le jour de Kippour pardonne. Donc il est très clair, Rabbi Yehuda Anassi. Il te dit, peu importe, d'accord, que tu fais Teshuvah ou que tu ne fais pas Teshuvah, Kippour arrive, exactement, Kippour arrive, chouk. Alors il y a quand même une exception. Il te dit l'exception là-bas, enfin quelques exceptions, mais l'exception principale, c'est les fautes que tu commets le jour de Kippour même. Bon, faut pas abuser non plus.
On prépaye là-bas.
Donc, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda Anassi? Rabbi Yehuda Anassi dit, écoute, peu importe que tu fais Teshuvah ou que tu ne fais pas Teshuvah, le jour de Kippour passe, il pardonne. Par contre, Rabbanan Savrei, les Chachamim pensent, Yom HaKippourim En Mechaper, Ela Al Hashavim. Le jour de Kippour n'expie que ceux qui font Teshuvah. Ça veut dire, il dit, je vais bien t'expier, mais il faut que tu fasses un effort de faire Teshuvah. Donc on aurait pu penser, a priori, que nous avons ici une marloquette, une discussion classique entre les sages, pour savoir, est-ce que Yom Kippour pardonne automatiquement, c'est un karcher qui n'est automatiquement, peu importe ce que tu as fait, ou bien, est-ce que c'est un karcher qui nettoie si tu te nettoies? Mais qu'apparemment, on aurait pu penser que Rabbi ou que les Chachamim pensent que quelque part Yom Kippour est un jour qui ne dépend pas de Dieu, ça dépend que de toi. On aurait voulu penser comme ça. Que d'un côté, il y a Rabbi Yehuda HaNasi qui dit que tout dépend de Dieu. Dieu te pardonne et basta. D'accord ? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et d'un autre côté, on pense qu'on a Chachamim qu'ils te disent. Non, la Teshuvah dépend principalement de l'homme. Parce que Dieu, il est bien. Dieu, tout va bien pour Dieu. Pour qui ça va mal ? Pour nous. Donc qui c'est qui doit revenir vers Dieu ? Ben, c'est l'homme. Donc on aurait pu penser que nous suivons ici, nous avons ici une machloquette classique entre Rabbi et Rabbanan, à savoir, est-ce que la Teshuvah dépend de Dieu ou est-ce que la Teshuvah dépend de l'homme ? Sauf que, il ne faut pas comprendre comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi, tout de suite. Parce que Maïmonide a tranché comme Chachamim. Et vous allez voir, on a ici deux références juste en dessous de Maïmonide, dans les lois de la Teshuvah et dans les lois des fautes commises par inadvertance. Et vous allez voir les nuances de Maïmonide. Alors pour vous faciliter, les mots ont été soulignés, comme ça on comprend un peu plus rapidement. Regardez comment Maïmonide, avec la nuance de ces mots, il nous apprend, il nous explique quelle est la teneur de la discussion. On y va. Nous avons une première référence dans Maïmonide qui dit la chose suivante, il dit « Ve'atzmo shel yom akipurim, l'essence même du jour, mechaper, pardonne, l'achavim, pour ceux qui font teshuva. » C'est intéressant comme définition ce qu'a Maïmonide. Ça veut dire, il te dit, il faut faire teshuva, et si tu ne fais pas teshuva, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qui va te pardonner ? Ce n'est pas toi qui va te pardonner. C'est l'essence du jour qui va te pardonner. Je vais expliquer tout de suite. Maïmonide aussi nous dit, dans la deuxième ligne, dans Yidchol Shgagot, dans les lois des fausses commises par inadvertance, « En yom akipurim echaper, et la ala shavim aminim bechaparatam. » Le jour de Kippour ne pardonne que sur ceux qui font teshuva et qui accordent de l'importance à leur demande de pardon. Ça veut dire que Maïmonide ici a une approche très simple. C'est ce qu'on va expliquer. En vérité, tout le monde est d'accord, et Rabbi, et Chachamim, tout le monde est d'accord, que qui c'est qui opère la Teshuvah, qui c'est qui fait la Teshuvah ? C'est Dieu. Non, c'est Dieu. Parce que l'homme ne peut pas faire Teshuvah. Tu crois qu'en un jour, tu vas régler des problèmes que tu as fait en un an ?
Mais ce jour est consacré, justement.
Évidemment. Alors, où est la machloquette ? Regardez, c'est logique. C'est logique. Combien de temps il faut pour casser ? Vous amenez un tracteur, vous amenez un bulldozer. Combien de temps il faut pour casser un immeuble ? Je me rappelle quand j'étais à la yeshiva de Brunois, à un moment, il devait détruire un bâtiment, un vieux bâtiment, dans lequel d'ailleurs on avait habité, mais après il devait le détruire pour construire le nouveau bâtiment. Et donc nous, on a habité là-bas pendant quelques mois, donc c'était quand même impressionnant. Et on se posait la question, combien de temps va prendre le tracteur pour détruire Il a pris 20 minutes. Bon, il n'était pas très solide, le bâtiment. Non, c'est pas préfabriqué. Non, c'était un bâtiment. C'était un immeuble, deux étages. En 20 minutes, d'accord, 15-20 minutes, il était par terre. Bon, après, il fallait écraser un peu plus, quoi. Il était par terre. Combien de temps il faut pour casser ? Combien de temps il faut pour construire ? Il faut du temps. Alors, comment, je comprends pas. Comment tu veux qu'on ait passé toute l'année
à casser,
excusez-moi du terme, et comment tu veux maintenant qu'en un jour, tu vas tout régler ? C'est sûr que c'est Dieu qui... C'est au-delà de la logique. Alors, où est la marloquette ? Dans ce cas-là, si c'est Dieu qui répare, c'est sur le compte du bon Dieu. Si c'est sur le compte du bon Dieu, où est le problème ? Non.
Quelle est l'implication de l'homme ?
Là, exactement. La marloquette, elle est comme ça. La marloquette, elle est, est-ce que Dieu, il te pardonne à condition que tu montres que tu t'impliques ? Ce qui est un peu logique. Si vous voulez, d'après l'approche de Chachamim, ils te disent, écoute, je veux bien que Dieu te pardonne, mais Dieu, il te dit, je te nettoie, mais montre-moi que toi, tu y mets du tien et que tu as envie de te nettoyer. Ça veut dire que l'essentiel du nettoyage, c'est moi qui va te le faire. C'est moi, c'est pas toi qui va le faire, c'est moi qui va te le faire. Mais pour te nettoyer, je te demande juste de montrer que tu as envie de le faire.
C'est une participation.
C'est pas une participation. Tu me montres.
L'envie. Une preuve de bonne volonté.
Exactement. Comme par exemple, un enfant, il va te demander de faire quelque chose. Tu peux tout le faire directement. Tu dis, écoute, je veux te le faire. D'abord, montre-moi que tu essayes de le faire et que tu as envie de le faire. Après, tu commences, que tu fais un petit peu. Après, moi, je te fais l'essentiel. Maintenant, en vérité, moi, j'aurais pu directement dire tout faire pour lui. Mais pourquoi je lui demande de faire montrer un effort ? Pour me montrer qu'il a envie de le faire. Et ça, c'est la marloquette qu'il y a entre Rabbi et Chachamim, à savoir, comment fonctionne Yom Kippour ? Là, je suis dans l'aspect halakhique. Est-ce que Yom Kippour fonctionne, même si je fais aucune preuve de bonne volonté, quoi qu'il arrive, Kippour arrive, il nettoie ? C'est comme ça. Ou bien, est-ce qu'on va dire, Kippour nettoie, mais Dieu demande juste que tu fasses quand même preuve de bonne volonté. Alors, preuve de bonne volonté, pour le juif de Kippour, il a fait preuve de bonne volonté, parce qu'il aurait pu rester chez lui, il est venu. Ou bien il a jeûné chez lui. Il n'a pas travaillé. Donc il a fait preuve de bonne volonté. Et d'ailleurs, la halakha a été tranchée comme Chachamim, que Yom Kippour ne pardonne que pour ceux qui font teshuva. C'est-à-dire que pour ceux qui font un effort. Pour qu'ils montrent qu'ils veulent revenir vers la Kadosh Baruch Hu. Qu'ils montrent qu'ils font un effort. C'est-à-dire que celui qui est resté, il a passé tout Kippour au casino, il n'a même pas eu une pensée de teshuva, Kippour ne peut pas marcher pour lui. Alors que d'après l'avis de Rabbi Danassi, Rabbi Danassi te dit, même si le gars il a passé toute la journée au casino, Kippour l'a pardonné.
Mais
si, vous savez pourquoi la halakha n'a pas été tranchée comme lui? Non, c'est faux. Vous savez pourquoi la halakha n'a pas été tranchée comme lui? Parce que Rabbi était minoritaire. Il avait la majorité des sages qui étaient contre lui.
Peut-être, mais
comme il était minoritaire, il a dû suivre l'avis de la majorité, l'avis des Chachamim. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, la halakha a été tranchée, que Yom Kippour ne pardonne seulement pour ceux qui font teshuva. Mais, tous les avis sont d'accord que qu'est-ce qui pardonne? C'est pas le fait que l'homme va réparer ce qu'il a fait. L'homme peut pas réparer ce qu'il a fait. Ce qui pardonne, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Maïmonide appelle l'essence du jour. C'est le titre du cours d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer, Bezrat Hashem, dans la suite du cours. Apparemment, il y a un niveau qu'on appelle l'essence du jour de Kippour, qui pardonne. C'est ça ce qui pardonne. Seulement, la seule machloquette qu'il y a entre, la seule discussion qu'il y a entre Rabbi Danassi et Chachamim, c'est est-ce que pour accéder à cette essence du jour, est-ce qu'il faut faire preuve de bonne volonté? Montrer à Dieu, faire patte blanche, montrer à Dieu, je veux revenir vers toi. Ou même si tu fais rien, ça te pardonne. Bon, la halakha est tranchée qu'il faut quand même faire preuve de bonne volonté. Montrer à Dieu que tu arrêtes de travailler, que tu as envie de revenir, que tu as une pensée de teshuva. Il faut quand même montrer qu'il y a quelque chose. Mais en vérité, qu'est-ce qui va te pardonner? C'est l'essence du jour. Le jour même de Kippour pardonne. Bon, alors ça demande quand même... Ça demande quand même à s'arrêter sur cette question.
Si c'est l'essence même du jour, pardon. Oui. J'ai pas besoin de faire tous ces efforts qu'il m'a dit.
Non, alors encore, ce que vous dites de ce Benita, c'est comme ce que dit Rabbi Danassi. Rabbi Danassi, tu dis plus que toutes les façons, Dieu, il envoie le gros karcher. Oui. Toi, avec ta goutte, tu vas rien changer. Mm-hmm. Donc, à la limite, que tu l'as mis ou que tu l'as pas mis, ça change rien. C'est ce que vous dites.
Oui.
Rachamim ne sont pas d'accord. Rachamim, ils disent, Dieu, il envoie son karcher. Mais il dit, pour que je passe mon karcher sur toi, montre-moi que t'as essayé au moins de frotter un petit peu. Après, je n'y arrive pas, bon, moi je fais le reste. Mais si dès le départ tu fais rien du tout et t'attends que je passe, ça se fait pas. C'est un peu logique ce que disent Rabbi Chachamim.
C'est vrai, mais ceux qui vont au casino, comme vous avez dit tout à l'heure.
D'ailleurs, au passage, vous savez, en vérité, Rabbi Danassi, qui dit que le jour de Kippour pardonne, même si on n'a rien fait, il a sur quoi se baser. Parce que dans la parashat Acharemot, dans la Torah, dans le pasouk qui parle de Kippour, qu'est-ce qu'il dit? Un pasouk qu'on connaît tous. Kivayom Azeh Yechaper Alechem. Traduction. Car ce jour-là, il vous pardonnera.
On ne parle pas de conditions.
Il n'y a pas de conditions. Ce jour-là, il vous pardonnera.
Tu as l'histoire des Ninevites qui est mort.
D'accord. D'accord. Mais ça veut dire, voilà, ça suffit le passage. Parce que tu dis, ce jour-là, il vous pardonnera. C'est tout.
Alors pourquoi on parle aussi dans la halakha, de ceux qui ne respectent pas Kippour, il est retranché.
Ah, attends 2 secondes. Seulement, le verset là-bas, il dit comme ça. Parce que le problème est dans la suite du verset. Il dit, car... Ce jour-là, qui va yamazeir haper alechem eter etrem ikol chatotechem, lifne Hashem titharu. Je traduis. Car ce jour-là, il vous pardonnera, il vous nettoiera, comme on verra après, de toutes vos fautes, d'accord? Devant Dieu, vous purifierez.
Oui.
Donc la fin du verset. C'est pas une condition.
Non, c'est systématique.
Voilà. Alors, comment comprendre devant Dieu vous purifierez? Est-ce qu'il faut comprendre devant Dieu vous serez purifié? Sous-entendu, tout est automatique, ça veut dire ce jour-là il vous pardonne et ce jour-là vous serez pur? Ou bien est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a une injonction? Ce jour-là il vous pardonnera, mais devant Dieu vous purifierez, ça veut dire vous devez faire un effort.
Ben c'est ça.
Non, c'est pas si. Non. Il y a une autre façon de comprendre.
Il y a une double.
Il y a une autre façon de comprendre, de dire ce jour-là il vous pardonnera, devant Dieu vous serez pur.
Oui, mais il faut qu'on fasse.
Non, mais vous serez pur, ça vous serez pur, toutes les façons.
C'est
pas vous devez. Ça veut dire est-ce que c'est un actif ou un passif? C'est pas simple du tout. Mais encore une fois, je ne veux pas vous compliquer dans des débats talmudiques, puisque de toutes les façons, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Il n'y a que le début du cours qui est un peu talmudique. Je ne veux pas vous compliquer avec les débats talmudiques. Ce qu'il faut retenir, c'est la halakha. La halakha nous dit. La halakha a été tranchée comme Chachamim, qui ont dit que c'est l'essence du jour de Kippour qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne, ça c'est clair, c'est pas mon effort qui va pardonner, mais Dieu émet une condition, il dit pour que je te pardonne, montre-moi que tu fais tes choux.
Mais Maïmonide se rallie à Chachamim
quand tu parles d'essence.
J'ai bien compris, mais monsieur Bergel, pas tous les avis sont d'accord avec ça. On est d'accord. Je comprends que vous dites comme l'avis de Chachamim, Bah ouais. Bah, y a un autre avis qui n'est pas d'accord avec ça.
Non, je suis d'accord.
Mais... Ah, ouais, je comprends.
Non, je comprends. Maïmonide se range aux avis de Chachamim.
On est obligé, parce que Chachamim, c'est la majorité.
Mais quand tu dis, lui, il met l'accent sur l'essence, c'est ça, c'est
son oui, apport, parce que ça, c'est l'apport. L'apport de Maïmonide, c'est qu'il te dit, il veut te faire comprendre par la nuance de ses mots, ne fais pas l'erreur de penser que selon Maïmonide, c'est l'homme qui pardonne. C'est jamais l'homme qui se fait pardonner. Ouais. C'est toujours Dieu qui pardonne, seulement la condition, la question, c'est est-ce que Dieu, pour te pardonner, il émet une condition ou pas ? Vous comprenez ?
Oui, c'est alors, la motivation que la condition. C'est
voilà. La alors, on va lire dans les mots l'écouter Sirot.
Pardonner, dit, se faire pardonner.
Oui.
Tu as dit qu'avant de se présenter devant Hachem pour qu'il nous pardonne, on devait aussi pardonner entre hommes, faire Mechila et tout
ça. Ça, c'est autre chose, c'est pas le thème aujourd'hui. C'est un autre thème, c'est une bonne question, mais c'est pas un autre thème. Pas... Aujourd'hui, déjà, on parle de la capara, de les fautes envers Dieu. Donc, dans les mots, l'écouter Sirot.
Quand on parle de l'essence, c'est quoi ? C'est ce que Dieu nous a envoyé ?
C'est un jour saint, c'est un jour...
C'est ce qu'on va développer. Voilà, donc,
rempli de
votre question, les questions que vous posez vont être développées par Zadachan dans la suite du cours.
De bienveillance.
Donc, l'écouter Sirot, je suis à la fin de la référence numéro 1. Af, Rachamim, Modim, même les sages sont d'accord, ça veut dire que même les sages qui ont dit que Yom Kippour pardonne que sur ceux qui font Teshuvah, tout le monde est d'accord que chez Itsumo, chez Yom Mechaper, que c'est l'essence même du jour qui apporte l'expiation. Ah, Vaïnu, ça veut dire. Chez En Biyecholet Adam Alédé Teshuvah, tout le monde est d'accord qu'en aucun cas, l'homme, par sa Teshuvah, ne peut atteindre la Chaparazo Abalédé Itsumo, chez Yom. C'est clair que tout le monde est d'accord que jamais moi seul, je pourrais arriver à faire teshuva. C'est clair, c'est évident. C'est évident, ça veut dire que c'est tellement colossal et les dégâts sont tellement importants que tout le monde est d'accord que jamais moi seul je pourrais réparer. Alors où est le débat ? Comment l'expliquer ? Lo nechleku, la seule discussion était, et là seulement, eizo derer, yavo adam li dekaparado de tsumo shalyom. La seule discussion qu'il y a entre les sages et rabbis, c'est comment obtenir l'expiation divine. Est-ce que l'expiation divine vient automatiquement, de facto, c'est-à-dire même si tu fais rien du tout, c'est l'avis du Rabbi, ou bien comme la halakha est, et c'est l'avis des Chachamim, on te dit, l'expiation vient, mais il y a une condition, c'est que l'homme doit montrer qu'il fait un effort. Et Dieu lui dit, fais un petit effort pour montrer que tu veux revenir, et moi après je ferai 99,99% du travail. D'accord ? Ça c'est un premier point. Ok. Avec ce qu'on a expliqué. Oui, non, mais ça veut dire qu'on a un point très important à comprendre ici. Ça veut dire que, d'un côté on comprend qu'il y a un effort à fournir de notre part, mais d'un autre côté, ça nous rassure. Parce qu'on se dit, mais comment je pourrais changer d'un coup? Comment je pourrais me réparer? C'est tellement colossal. Comment je peux tout réparer? On dit, c'est pas toi qui répare, c'est Dieu qui répare. Seulement, Dieu, il te dit, montre-moi que tu fais un effort.
Mais cet effort, il est laissé à l'appréciation de chacun de nous.
Exactement.
Ah oui,
cet effort est un effort de Teshuvah.
Donc alors.
Teshuvah, monsieur Benita, ça veut dire retour. Retour, ça veut dire décision de retourner. Je dis chaque année, que tu peux avoir un juif de Kippour qui a tout compris à Kippour, qui est venu 5 minutes à la fin de Kippour, qui a tout compris, et tu peux avoir quelqu'un qui a fait les slichot depuis Rosh Chodesh Elul et qui a rien compris. Je m'excuse d'être cru, de pousser un peu, d'accord, le bouchon, mais c'est la vérité. J'explique ce que je veux dire. C'est quoi Kippour ? Kippour, c'est pas Kippour et les slichot et Aseret Yemei Teshuva et Rosh Hashanah et les slichot depuis le mois d'Elul. C'est pas lire des textes. D'accord ? C'est pas lire des textes, c'est pas chanter. Ça, c'est la liturgie, c'est important, mais c'est pas ça Kippour. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui arrive, tu dis, alors comment s'est passé Kippour? Il dit, j'ai fini tout le livre. On dit, vous m'excusez du terme, mais je lui dis, je m'en fiche de ton livre.
Ah, d'accord.
Mais c'est la vérité.
C'est pas ça le principal.
C'est pas ça le principal. Le livre est un moyen.
Exact.
C'est pas un but. Le but, c'est pas de lire le livre. Le livre, c'est kadosh, il est beau le livre. On l'embrasse le livre. Rasé shalom, je m'en parle de respect au livre. Mais le but de Kippour, c'est pas de lire un livre. On n'est pas venu pour faire de la parlotte. On n'est pas venu pour tourner des pages. On n'est pas venu pour faire des courses et qui va changer le mieux. C'est quoi Kippour ? Kippour, c'est qu'à un moment ou un autre de Kippour, et de la Aseret Yemei Teshuvah, donc cette semaine, et depuis Rosh Chodesh Elul, il doit y avoir un moment dans lequel il y a un déclic dans ma tête. Un déclic qui peut durer une fraction de seconde, et c'est suffisant. Un déclic dans lequel je veux me dire, il faut que je change. Il faut que je revienne. Il faut que je change de direction. Il faut que je fasse Teshuvah. C'est quoi Teshuvah ? Teshuvah, c'est pas je vais tout casser, je vais tout changer, etc. C'est pas ça, Teshuvah. Teshuvah, c'est une décision d'une fraction de seconde de retourner. Et ça, pour pousser le débat encore une fois, je pousse un peu le bouchon, je sais, volontairement je le fais. Tu peux avoir un juif qui est venu depuis le début du stérot, qui a fait toutes les stérot, qui a pas raté un mot, et qui a tout lu, qui a tout dit, mais qui n'a pas compris qu'on parlait de lui. C'est-à-dire, on parlait d'un texte, il y a un texte, il y a un texte, il n'a pas compris un seul instant qu'on parlait de lui, qu'on parlait de moi, et que c'est moi qui dois revenir. Celui-là, il a rien compris, il est passé à côté. Kippour s'est passé, mais lui, il n'était pas dans Kippour. D'un autre côté, tu peux avoir un juif qui était malheureusement à côté de la plaque pendant 40 jours. Il arrive les 5 dernières minutes de Kippour, et il a une vraie pensée, le Teshuva, dans sa tête, dans laquelle il dit, il faut que je me range. Maintenant, il ne se rangera pas. Parce que, bon, malheureusement, il va ressortir, il va rentrer chez lui, il va retrouver qui ne doit pas retrouver. D'accord? Non? Il va retrouver qui ne doit pas retrouver. Mais, peut-être, ça c'est entre lui et Dieu, que la pensée, le Teshuva qu'il a eu quand il est rentré dans la synagogue, peut-être que cette pensée était extrêmement sincère. Et à ce moment-là, il est devenu Baal Teshuva. Après, il est retombé. Bon, il est retombé. Tout le monde peut retomber. Ce que je veux dire par là, c'est ce que te dit Rabbanan, Chachamim. Et c'est comme ça que t'es l'Halakha. L'Halakha te dit Kippour. Je veux bien que ça marche, Kippour. Mais pour que Kippour marche, il faut que toi tu montres que tu comprends qu'on parle de toi. D'accord?
C'est pour moi.
Oui, c'est Kippour, c'est pour moi. Alors, hein.
Alors ça veut dire que si on devait passer sur l'oscilloscope, la tchouva, ça fait juste une pointe.
Bien sûr.
C'est genre comme ça et une seconde après zéro.
Oui. Ouais. En une fraction de seconde, on peut devenir tzadik en faisant teshuva. Parce que c'est quoi teshuva? La teshuva, c'est une décision d'une fraction de seconde.
Mais c'est pas sincère.
Dans laquelle je décide de seconde, s'il vous plaît, dans laquelle je décide de changer de cap. Comme quelqu'un, par exemple, qui est dans un bateau. D'accord? Maintenant, il s'est planté, il s'est éloigné du cap. D'accord? Et à un moment, deux secondes, s'il vous plaît.
C'est pour ça que
j'ai pas fini de répondre. Et à un moment, il réalise. Donc, on est capitaine de notre bateau. D'accord? Tu es maître à bord. Et à un moment, je réalise que je me suis trompé de cap ou que je suis parti chercher un cap qui m'intéressait. Qui était beau. Il y avait une belle plage là-bas. Il y a un cap qui m'intéressait. Mais c'était pas le bon cap. Alors, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Je décide de changer de cap.
Est-ce que je le fais?
Maintenant, il faut beaucoup de choses pour changer de cap. T'as un paquebot à tirer avec toi. Ça veut dire qu'il faut, vous savez, le temps qu'il faut pour changer de cap. Il faut le temps que le bateau, il prenne, il change, et après le temps qu'il change, tu peux, t'as 15 fois le temps de changer d'avis. C'est pas grave. La Torah te dit, dès l'instant où t'as décidé de changer de cap, c'est là que t'as appelé Baal Teshuva.
On parle d'intention, alors.
Bien sûr. Mais une intention réelle.
Oui,
sincère.
Sincère.
Ouais. C'est-à-dire, concrètement, je pense le faire. Et ça veut dire qu'on doit avoir, on doit travailler sur ça. Et toutes les slichot qu'on fait depuis Rosh Chodesh et Elul, ou depuis un peu après, et toutes les slichot et toutes les prières qu'on a fait Rosh Hashanah, tout ça, ça a été étudié pour espérer que peut-être, une fraction de seconde des 40 jours, il y aura à un moment, une pensée, une fraction de seconde, à un moment dans laquelle je vais me dire, mais attends, Mendy Assouline, on parle de toi là. C'est quand que tu vas revenir? Tu vas revenir ou tu vas pas revenir?
Non, mais il dit une chose et son contraire là-dedans. Hein.
Ah.
Il dit une chose. Il dit que tu as le droit, quoi qu'il arrive, tu vas obtenir la teshuva. Et d'un autre côté,
j'ai pas dit ça.
Oui,
non.
Mais
non, j'ai pas dit ça.
Ben oui,
j'ai pas dit.
C'est pas début, le rave là, je sais pas le.
Rabbi.
Non, pas
Rabbi Danassi.
Il y a un monsieur là, que je sais pas lequel, un des premiers là.
C'est un sage.
Vous avez cité.
Ah, oui.
Qui lui, il a dit, de toute façon, vous allez avoir la teshuva.
Mais ça, c'est un avis. Mais la halakha n'est pas comme lui.
Oui, d'accord. La halakha n'est pas comme lui, mais c'est quand même un homme respectueux et respectable.
J'ai bien compris, mais monsieur Benita, c'est un débat talmudique. C'est un débat talmudique dans lequel il faut trancher. Ça veut dire, après, c'est des questions, comment analyser les textes. Donc, il y a un maître qui a exprimé son avis, d'accord, et il a expliqué sur quoi il basait son point de vue, mais les sages n'étaient pas d'accord avec lui. Or, comme les sages étaient majoritaires, donc on a dû suivre la majorité. Maintenant, le sage est respectable, et comme il est respectable, c'est pour ça qu'on cite toujours son avis, parce que son avis a le mérite d'être cité. Il a le mérite d'être étudié.
Maïmonide, voilà.
Maïmonide, non, Maïmonide. Maïmonide, il a tranché la halakha comme le deuxième avis. C'est Rabbi Yudan Assi.
Voilà.
C'est l'époque de la Mishnah. Mais à l'époque de la Mishnah, il y a une machloquette. Machloquette. Discussion. Et la discussion, on a dû suivre la majorité. La halakha était tranchée que Yom Kippour pardonne seulement sur ceux qui font teshuva.
Il y a l'histoire des nouvelles, ça ne joue pas.
Pas du tout.
C'est vrai.
Non, rien à voir. C'était particulier là-bas. C'était pas un jour de Kippour, c'était une nouvelle. C'était un cas particulier, Dieu l'a envoyé, une mission particulière, ça n'a rien à voir avec Kippour. Là, donc de là, on comprend, et c'est ce qui m'intéresse pour le cours d'aujourd'hui, que le jour de Kippour a un pouvoir spécial. Et c'est ce que j'aimerais définir. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, imaginez par exemple que la semaine prochaine, je sais pas, mardi prochain, je décide de revenir vers Dieu. Je peux revenir vers Dieu. Mais il n'y aura pas la même force que Kippour.
Non, non, c'est pas que
c'est. Je sais pas si c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Mais apparemment, je n'aurai pas l'essence du jour. Alors, c'est ce qui. Il faudrait qu'on s'arrête un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, c'est coordonner son envie de t'échouer
voilà,
à ce jour.
Avec l'essence du jour, exactement. C'est-à-dire, quand tu combines l'un avec l'autre, d'un côté, tu as l'essence du jour, et d'un autre côté, tu as ton envie juste d'essayer de t'accrocher, tu accroches, une fois que tu accroches, tu dis c'est bon, je t'ai pris.
Ça fait risette.
D'accord? Bon, sauf que ça maintenant.
Mais enfin, même ça, c'est pas bien. Parce que pourquoi? Parce que celui qui veut faire teshuvah au cours de l'année, ouais. Il va dire je vais attendre.
Non, pas du tout, monsieur Benida. On peut faire teshuvah quand on veut.
Oui, non.
Mais il y a des jours.
C'est la meilleure façon de s'accrocher. C'est justement là.
Il y a des jours propices, c'est comme ça.
Ben oui, alors donc autant attendre le top plutôt que de.
Monsieur Benita, vous voulez acheter quelque chose. Il y a un jour où il y a les soldes. Il y a la première démarque, la deuxième démarque, la troisième démarque. Tu peux acheter toute l'année si tu veux. Tu payes. Mais il y a un jour, on te dit juste, tu viens juste, tu passes la carte, tu payes un symbolique et tu prends l'objet. C'est le même objet que tu aurais payé trois fois le prix. Voilà. Mais moi j'ai envie, mais vous comprenez, il n'y a plus. Vous prenez, là maintenant, Dieu il te dit écoute, Kippour, je te pardonne. Mais juste montre-moi que tu veux revenir.
Mais
une petite question. Allez, parce qu'après il faut qu'on avance.
Ok, Dieu remet les compteurs à zéro, n'est-ce pas?
J'ai pas dit ça.
Bon, moi c'est ma question.
J'ai dit, il pardonne.
Il pardonne.
On doit définir ce que c'est le pardon.
Ouais. Pardonner, ça veut dire que je vais arrêter de t'en vouloir. Je vais arrêter de te.
Ça veut dire que oui.
Oui.
Bon. J'ai pas dit remettre le compteur à zéro. C'est un thème que vous avez dit. Je n'ai pas dit ça.
Ah. Ma question est la suivante. Vous avez à Rosh Hashanah, on dit que c'est le jugement. Donc il y a des décrets positifs pour l'homme ou moins positifs pour l'homme.
Oui.
Pour l'année.
Oui.
N'est-ce pas?
Bien sûr.
Oui. Il y a des choses qui se sont mises en place. Et à qui pour, c'est validé ou c'est pas validé?
D'accord.
N'est-ce pas?
Oui.
Jusque là, vous me suivez?
Bien sûr. Oui.
Mais
non, attendez. Quand à Rosh Hashanah, c'est déjà validé. À qui pour, on peut revenir jusqu'à ce qui a été validé.
Oui. Donc on a encore qui pour.
Pour signer avant la signature,
pour valider ou on peut dévalider.
Non, si vous voulez, à qui à Rosh Hashanah c'était écrit, mais c'est pas signé encore.
C'est pas signé.
Et à qui pour se signer? Donc on a jusqu'à qui pour et qui pour inclus pour revenir sur ce qui a été écrit.
Est-ce que ça veut dire que l'homme par sa teshuva peut éventuellement entre guillemets dévalider un mauvais jugement ou un mauvais
évidemment. Qui peut tomber sur lui. Ah mais évidemment, c'est le but.
C'est le but
de Kippour.
D'accord.
Seulement la question est. La question est la suivante. Là, je comprends ce que vous voulez dire. Vous rentrez dans un autre registre. Le registre de la décision, quelle année je vais avoir. C'est une autre question, ça. C'est pas sur ça que je parle. Moi, je m'arrête sur la définition même de Kippour. Pas sur la notion, est-ce que j'aurai une bonne année? Parce que
non.
Ça, c'est déjà un résultat. Non. Comme on va me pardonner mes fautes, donc automatiquement, je vais devenir méritant. Donc, comme je suis un type méritant, on me donne une bonne année. C'est déjà un résultat, ça. C'est pas sur ça que je m'arrête.
Non, est-ce que quand vous dites... à partir du moment
où
on est dans le jour où il y a ce fameux jour dit...
Monsieur Silam, oui. Je reprends la question. Regardez. À Rosh Hashanah, on me juge par rapport au fait que j'ai accompli en 5577.
D'accord.
Maintenant, j'ai fait des bêtises en 5577. Donc, on m'a jugé en fonction de ce que j'ai fait.
D'accord.
Ok. Maintenant, pendant la Seret Yemei Teshuvah, je vais revenir sur ce qui était jugé. Mm-hmm. Et je veux dire, d'accord, Akadosh Baruch Hu, toi tu m'as jugé par rapport à ce que j'ai fait en 5177, et effectivement j'ai fait des fautes. Mais je vais faire teshuva. Je vais revenir dessus pour te demander de me pardonner et d'effacer ces fautes. Or, une fois que tu me pardonnes les fautes que j'ai fait en 5177, donc automatiquement c'est plus le même jugement que j'ai, c'est une autre personne qu'on juge maintenant. Donc automatiquement on revient sur le jugement. Mais ça c'est déjà un résultat. Étant donné que mes fautes ont été pardonnées, donc automatiquement le jugement est revu à la hausse. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on m'a jugé Rosh Hashanah sur une base d'un homme qui a fauté. À Kippour, on me rejuge sur la base d'un homme qui n'a plus fauté. Donc, c'est un autre jugement.
Kippour, c'est une sorte d'appel, quoi.
C'est
une cour d'appel.
Non, c'est pas un appel. On te dit, on n'a pas encore validé le jugement. Vous savez, il y a un jugement qui a été fait, mais il n'a pas encore été validé. Il n'a pas encore été validé par le juge, donc on te dit, tant qu'il n'est pas validé, tu peux encore revenir dessus. Comment on revient dessus? On va dire, attendez, monsieur le juge, d'accord, votre, je sais pas comment on appelle ça, objection, votre honneur, vous croyez que je suis ce que, effectivement, vous avez raison que j'étais comme ça, mais je ne suis plus comme ça, donc je suis une nouvelle personne, donc jugez-moi en tant que cette nouvelle personne.
Donc ce sont des éléments nouveaux.
Évidemment. Évidemment, c'est ça qui est pour.
Donc
c'est pour ça que, évidemment, c'est pour ça que, c'est ça la force de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait dans son extrême bonté? Regardez, qu'est-ce que Dieu fait dans son extrême bonté? Dans son extrême bonté, il te dit, je te juge. Je te juge par rapport à ce que tu as fait l'année dernière. Mais je ne valide pas le jugement. Je te laisse un jour avant de valider le jugement dans lequel je te pardonne sur tout ce que tu as fait. Donc en vérité, c'est un jugement qui est truqué. Parce que le juge est celui qui va te pardonner. Vous me suivez? Ça veut dire, c'est, le juge, c'est ton père, quoi, tu crois? Bah ouais. Tu dis, écoute, voilà, je te juge, pas de problème, et je vais te juger mal, parce que, ou bien, Bezrat Hashem, mais en tout cas, je vais te juger selon ce que tu as fait, mais je te donne quelques jours pour, avant de finaliser le jugement, et pendant ces quelques jours, je vais te donner la possibilité de revenir sur les fautes que tu as fait, comme ça, quand je repasserai le jugement avant de le signer, je dis, ah, mais attends, mais c'est une nouvelle personne, là. Ah, c'est une nouvelle personne, Neila, c'est une nouvelle personne. Allez, hop, on y va. Nouveau jugement, Chayim Tovim Ul Shalom. D'accord? Donc, ça veut dire quoi?
Seulement,
tout le monde est d'accord que c'est Dieu qui... Donc évidemment, on comprend que c'est extrêmement gentil ce que Dieu fait, qui combine tous ces éléments. C'est-à-dire qu'il te combine le jour du jugement, de la finalisation du jugement, qu'il le combine avec le jour du pardon, c'est une extrême bonté. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire, je te juge, mais avant de finaliser le jugement, je te donne la possibilité de te pardonner, comme ça quand je finalise ton jugement, c'est un bon jugement. Seulement, il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est montre-moi que vraiment tu veux retourner. Ça veut dire, le juge, il dit, moi, je peux tout pardonner. Moi, je peux dire devant moi, j'ai une nouvelle personne, je considère que c'est une nouvelle personne, et il est reparti pour un tour, et c'est bon, on pardonne, etc. On fait comme si de rien n'était. Mais le juge, il dit la chose suivante. Ça, c'est la vie de Rahamim. Rahamim, il te dit, mais attends, tu comprends? Imagine, mets-toi à la place du juge. Le juge, il veut bien tout pardonner. Il veut bien dire, bon, j'efface tout. Il a la force de tout effacer. Mais il dit, mais, fais-moi une preuve de bonne volonté. Montre-moi que tu fais quelque chose. Preuve de bonne volonté. Si tu fais une preuve de bonne volonté, tu montres, voilà Dieu, je veux retourner, je suis sincère. Tu dis, écoute, t'es sincère. T'as pas encore le temps de faire tes preuves, mais tu me montres que t'es sincère. C'est bon, je considère comme si t'as tout effacé. Moi, j'efface tout. Donc, automatiquement, c'est une nouvelle personne qui est jugée. Ça, c'est le sens de Kippour. Seulement, évidemment, ça demande d'être développé beaucoup plus. Parce que, quelque part, comme on va développer, c'est pas normal, comme situation, de dire que les choses sont pardonnées automatiquement. C'est pas normal. Surtout quand on va développer la Teshuvah, on va décomposer la Teshuvah en trois aspects. Et vous allez voir qu'au niveau des trois aspects que je vais développer, les trois aspects vont nous poser problème par rapport à la teshuvah automatique. C'est vrai. C'est-à-dire, nous, on s'est toujours imaginé qu'un Baal Teshuvah, c'est une personne qui fait un effort de transformation. D'accord? C'est une personne qui va être métamorphosée, qui va changer complètement sa vie. Bon, là, je comprends. Une personne qui a changé carrément sa vie. D'accord? Qui a fait une chirurgie spirituelle. D'accord? Cette personne-là, je peux... Hein? Ah, tu connais pas? Hein? Il y a la chirurgie esthétique, faciale, et il y a la chirurgie spirituelle. Je peux comprendre. Mais c'est quoi cette histoire de Kippour? Le gars, il a rien fait. Juste, il a déclaration de bonnes intentions de décider de changer. Et il dit, bon, c'est bon, t'as déclaré que tu veux changer. Alors, je considère que t'as tout changé, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Donc, en vérité, on n'a même pas démarré pour répondre à la question. On n'a fait que poser les éléments. Je résume, pour résumer. Ce qu'on a expliqué, la conclusion à laquelle on est arrivé jusqu'à maintenant, qui est déjà une conclusion importante. On est arrivé à la conclusion que Rosh Hashanah, Dieu nous a jugés, mais qu'il n'a pas validé le jugement. Et que, avant de valider le jugement, il nous a donné quelques jours. Et pendant ces quelques jours, il nous donne la possibilité de faire Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? C'est décider de revenir. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Dès que tu décides de revenir, automatiquement, le jour de Kippour, Dieu, il allume le gros karcher. Qu'est-ce qu'il fait ce gros karcher? Il dit, tout celui qui décide de revenir, je fais comme si qu'il est déjà revenu et qu'il n'y a plus rien. Donc, évidemment, automatiquement, si tu dis que celui qui a décidé de revenir, et qui ne veut pas revenir à Kippour, et que Dieu lui dit, je te considère comme si il n'y a plus rien, donc on est tous clean à Kippour. Sauf que la vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'essence du jour? Comment ça fonctionne? Alors on va essayer de décortiquer, de décomposer. On va prendre directement la référence numéro 3. Dans la Teshuvah, nous avons trois composantes. Avant de rentrer dans les mots, trois composantes. Encore une fois, le but, c'est de poser une question. Jusqu'à maintenant, on a compris. Bon, quel est le sens du jour qui pardonne? Juste fais une preuve de bonne volonté et Dieu, il te pardonne. C'est bon. D'accord. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est comment ça fonctionne. Dans la Teshuvah, il y a trois composantes. Il y a la composante de la Kapara. Ça veut dire, comment fonctionne la Kapara? Kapara, c'est le pardon. Bon, c'est quoi la Kapara? C'est quoi le pardon? Ça veut dire quoi, pardon? On va expliquer ce que ça veut dire. On a aussi la composante de l'objectif de la Teshuvah, que je vais expliquer aussi. Et on a la composante du regret. Trois composantes que l'on va bien développer. Pour l'instant, ça a l'air un peu flou pour vous, je comprends. Mais on va expliquer ces trois composantes. Point par point. D'abord, on va commencer par le plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, kapara? Alors, kapara, non. Kapara, d'accord? Les gens traduisent que kapara, ça veut dire pardon, dans le sens que, t'as fait une faute, t'es pardonné, c'est-à-dire que tu seras pas puni. Sauf que c'est pas ça du tout la kapara. C'est-à-dire, les gens pensent que ce soit kapara, c'est, j'ai pris la bouteille, je l'ai cassée. D'accord? Donc non, la bouteille, elle reste cassée. Seulement quand je dis kapara, quand je dis je te pardonne, ça veut dire que je te dis la bouteille reste cassée, mais moi je te punirai pas. C'est pas ça kapara. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'une punition qui vient d'Akadosh Baruch Hu est toujours réparatrice. Or, si tu me dis que Dieu ne me punit pas, ça veut dire qu'il ne me laisse pas réparer ce que j'ai fait. Alors comment ça fonctionne, la kapara? Vous comprenez le problème, ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, je vais beaucoup plus loin qu'on peut penser. Nous, on réfléchit un peu comme des enfants, comme des bébés. C'est-à-dire, tu dis, bon, j'ai fait une bêtise, mon papa, il va me punir. Seulement, je lui ai demandé pardon, il m'a dit, je te pardonne, il ne me punit pas, il ne m'a pas puni. Oui, mais c'est pas ça, le pardon. Parce que quand une personne faute et que son père décide de le punir, surtout quand son père, c'est Dieu, la punition est réparatrice. Donc, il faut dire que quand je pardonne, je vais obtenir le même effet de réparation par le pardon. Comment ça fonctionne? C'est là que vient nous expliquer le Tanya, dans les Guéret Hatchoua, référence numéro 3. Kapara ilachon kinoir. Très important ce qu'il dit ici. Les gens traduisent kapara par pardon, mais c'est faux, c'est pas une bonne traduction.
Alors, quelle est la traduction?
Attendez. Kapara, étymologiquement, veut dire nettoyage. Lachon kinoir. Shemekaneach lichlour achet. La souillure causée par la faute est nettoyée. Ça change tout ce qu'on est en train d'expliquer. Ça veut dire, c'est pas que Dieu il dit, ce que t'as cassé, mais je t'en tiens pas à rigueur. Pas du tout. Comment je répare ce que j'ai cassé? C'est pas ça, kapara. Kapara, c'est si Dieu il me pardonne, ça veut dire que Dieu il dit, la faute que tu as fait, je la nettoie. Vous me suivez? Ça veut dire que Dieu est en train de me dire, la faute que tu as fait, non seulement que je te jugerai pas pour ça, c'est évident. D'accord? Mais en plus, je la nettoie. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de tâches.
C'est une réparation.
Tu m'as cassé un pot de peinture par terre, il n'y a plus de pot de peinture par terre.
C'est ça le...
Ça, c'est Kapara.
Ça, c'est
Kippour. Kippour, c'est pas le... En traduisant en français par le jour du grand pardon. Mais c'est une mauvaise traduction, en vérité. C'est le jour du grand nettoyage. Mais sauf que... Pourquoi... J'ai expliqué pourquoi ils n'ont pas voulu traduire par nettoyage. Pourquoi on n'a pas traduit ça par grand nettoyage? Parce que nous, quand on est en grand nettoyage, on s'imagine... Pessah. Mais le nettoyage de Pessah, qui le fait? Ça, c'est moi. C'est pour ça... Là, c'est intéressant. C'est que le nettoyage de Kippour, c'est Dieu qui le fait. C'est pas toi qui le fais. Toi, juste, tu prends le balai, il dit juste, prends le balai, fais semblant, et moi, je fais le reste. Mais Kippour, c'est ça, Kippour. Alors, Dieu, il dit, je te nettoie. Parce qu'encore une fois, si Kippour, ça aurait voulu dire juste que Dieu dit, bon, je te pardonne, je te dis rien pour cette fois-ci. Et comment on nettoie sur la faute que j'ai fait? J'ai cassé quelque chose. Comment on répare ce que j'ai cassé? Donc, on est obligé de dire que lorsque Dieu me pardonne, si tu dis que Dieu, il me pardonne, ça veut dire que Dieu, il me dit, je te tiens par rigueur et je nettoie, je répare ce que tu as cassé. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Donc, déjà, on a un premier élément très important de la Teshuvah. Qui dit que, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Kapara? Kapara, c'est nettoyage. D'accord. Maintenant, deuxième élément. Je précise bien ces trois éléments pour expliquer pourquoi ça nous pose problème et ça va nous poser problème de dire que Dieu nous pardonne automatiquement. Premier élément de la Kapara, c'est de dire que Dieu, c'est pas seulement qu'il pardonne, il efface, il nettoie. D'accord. Maintenant, deuxièmement. L'objectif de la Teshuvah, c'est quoi? La Gemara dans le traité Yoma nous dit, juste en dessous, Gdola Teshuvah me'ahava, grande est la Teshuvah par amour, chez Donot na'asulo kezachuyot. Elle transforme les fautes commises intentionnellement en bienfaits. Ça veut dire que, ça c'est encore plus fort ça. Ça veut dire qu'on te dit que quelqu'un il a fait une gaffe, tu vois, il a fait une bêtise. Non, en faisant exprès. Exprès, il a fait une bêtise.
Intentionnellement.
Ah oui. Et qu'est-ce qu'on te dit? S'il fait teshuvah, s'il revient vers Dieu par amour, Dieu lui dit, les fautes que tu as commises, même intentionnellement, c'est pas seulement que je les pardonne, c'est pas seulement que je les nettoie, non, c'est plus que ça. Je les transforme en mitzvot. Ça veut dire qu'à la limite, tu dis, j'aurais dû en faire plus. Alors pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Le Baal Shem Tov explique, bien sûr, même intentionnel.
Toutes les fautes intentionnelles?
Toutes, oui.
Toutes nature?
Toutes. Pourquoi?
Même les fautes les plus graves, voler, tuer, etc.
Alors le Baal Shem Tov explique comme ça. Il dit pourquoi, comment on peut dire quelque chose comme ça? Comment on peut dire qu'une faute commise intentionnellement se transforme en mérite? Déjà, c'est pas facile de dire qu'on me pardonne. En plus, on me dit que c'est même pas qu'on pardonne, on nettoie. C'est déjà pas mal si tu me nettoies. Là, c'est même pas pardonner, nettoyer. Là, c'est carrément, je lui dis, mais tu sais quoi? T'as fait une mitzvah. T'as fait 100 avérotes. Allez, je dis que t'as fait 100 mitzvot. Mais c'est quoi cette histoire? Baal Shem Tov explique comme ça. Il dit qu'en vérité, si on voit bien, plus la avéra qu'on a fait était grave, plus la faute qu'on a fait était grave, et plus la soif qu'on a eue de revenir vers Dieu était puissante. Bah oui. Parce que quelqu'un qui a fait une petite faute, la soif qu'il a de revenir est petite. Mais celui qui a fait une faute très grave, la soif qu'il a de revenir est beaucoup plus puissante. Vous savez, c'est un peu comme le ressort.
C'est proportionnel,
c'est comme le ressort. Le ressort, tu l'as bougé un petit peu, tu l'as appuyé un petit peu, et il remonte un petit peu. D'accord ? Tu l'as fait descendre un petit peu, il remonte un petit peu. Tu l'as fait descendre beaucoup, il remonte combien ? 1200. C'est une fusée. Donc c'est pour ça que si tu fais une vraie teshuva par amour, non seulement qu'on t'efface les fautes, non seulement qu'on te répare les fautes, on dit que c'est comme si qu'il n'y a plus de fautes. On a nettoyé, kapara, dans le premier sens, dans le sens nettoyage. Plus que ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on te fait ? On te dit que l'objectif de la teshuva, c'est que carrément, les fautes que tu as faites deviennent un mérite. Maintenant, j'ai pas fini. Il y a un troisième élément dans la teshuva. C'est quoi le troisième élément ? Troisième élément, c'est le regret. D'accord ? Pourquoi le regret ? Quand on fait teshuva, il y a deux choses. Il y a le regret et il y a la confession.
La quoi ?
La confession. Il faut savoir que ce sont des notions qui ont été pompées. D'accord ? Les chrétiens ont été pompés, ils l'ont pompé de chez nous, mais ça vient de chez nous. Quand on revient vers Dieu, il y a deux choses. Il y a le regret et la confession. Le regret, c'est dans le cœur. Dans mon cœur, je regrette ce que j'ai fait, j'essaie de revenir. La confession, c'est verbal. Verbalement, je dois avouer mes fautes. D'ailleurs, c'est pour ça. Je dois avouer publiquement. Je dois le dire verbalement. Verbalement à moi-même, mais je dois le dire verbalement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le texte de la prière de Kippour, nous avons le Al-Khet, qui est une confession. Maintenant, le rabbi de Marseille, dans son livre Derech Mitzvotecha, pose une question. Il dit pourquoi c'est important quand on fait une faute d'avoir ces deux aspects, le regret dans le cœur et la confession avec la bouche. Il dit comme ça. Il dit parce que lorsqu'on a fait une avéra, dans une avéra il y a un corps et une âme. L'âme de l'avéra, c'est le plaisir que j'ai éprouvé quand j'ai fait l'avéra. Un plaisir, j'ai kiffé. Et ça il faut l'enlever ce plaisir. D'un autre côté, quand j'ai fait une avéra, il y a aussi le corps de l'avéra. C'est-à-dire l'objet avec lequel j'ai fait l'avéra. Le membre qui a été utilisé, le geste qui a été utilisé. Donc, dans chaque chose que je fais, il y a le corps et l'âme. Très bien. Comment je supprime l'âme de l'avéra? L'âme de le kiff de l'avéra. Ça, c'est par le regret. Parce que le kiff de l'avéra, il était en moi, dans mon cœur. Donc, comment je supprime le kiff de l'avéra avec le regret qui va être opéré aussi dans mon cœur. Cœur. D'accord? Maintenant, l'avéra avait aussi un corps. Ça veut dire qu'elle a pris une forme physique, l'avéra. J'ai fait l'avéra avec ma bouche, avec mes mains, avec mes pieds, avec mes membres. Donc j'ai fait une avéra avec mon corps physique. Alors comment on déracine, comment on répare ce côté physique de l'avéra ? Eh bien ça, c'est par le côté verbal, quand je bouge mes lèvres. J'aurais pu penser dans ma tête, j'ai fait une avéra. Pourquoi j'ai besoin de le dire verbalement ? Parce que la Gemara nous dit que quand tu bouges tes lèvres, c'est une action. Penser, c'est une pensée. Bon, c'est une pensée dans la tête, dans le cœur, mais ça reste une pensée. Mais quand tu prononces verbalement, tu donnes une forme physique à la chose. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu fais tes shuva, tu dois avoir les deux aspects. Tu dois avoir la confession, enfin d'abord le regret dans le cœur, ça c'est pour réparer le plaisir que tu as eu quand tu as fait l'avéra. Et d'un autre côté, tu dois avoir la confession verbale, ça c'est pour réparer le geste de l'avéra. D'accord ? Donc on voit bien ici que faire teshuva, c'est quand même assez complexe. Il y a trois éléments très clairs qu'on a dit ici. Premier élément, c'est que la teshuva nettoie. Deuxième élément, c'est que la teshuva, carrément, elle fait en sorte que les fautes que j'ai faites sont transformées en mitzvot. Et troisième élément, c'est que quand je fais une teshuva, il y a une dynamique. Dynamique de regret, une dynamique de confession. Ça veut dire que je dois essayer de déraciner l'avéra que j'ai fait. Et ça nous pose problème. Parce que si on voit avec tout ce qu'on a expliqué que la teshuva, c'est quelque chose de très compliqué, ça prend du temps. Comment on peut venir dire que tout ça, ça s'opère automatiquement, par l'essence du jour ? Ça marche pas, c'est pas possible. Vous voyez bien avec son expliqué que la teshuva c'est un effort qui demande des grands efforts.
Ça veut dire il faut la collaboration de l'homme.
La collaboration extrêmement active de l'homme. Or, d'après ce qu'on a expliqué depuis le début du cours, on n'a jamais demandé de collaboration hyperactive de l'homme. Ce qu'on a demandé c'est juste une preuve de bonne intention. C'est-à-dire déjà on avait un avis, l'avis de Rabbi que vous l'aimez bien Monsieur Benita, lui il a dit tu fais rien du tout, Dieu il t'aime et ça passe. Voilà, et même l'avis qui a dit il faut un effort, il a dit bon écoute. Prends le balai, juste pour montrer que t'as pris le balai. C'est tout. Mais si on voit, quand on voit ce qui se passe vraiment quand on fait teshuvah, on voit que c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui se passe dans mon corps. Il y a une dynamique de nettoyage, une dynamique de soif vers Akadosh Baruch Hu, une dynamique de regret, une dynamique de confession verbale. C'est-à-dire qu'il y a des efforts extraordinaires à fournir par l'homme. Donc ça, c'est des chemins qu'on comprend. Mais apparemment, on est en train de dire que tout ça, quelque part, c'est pas nécessaire. Que même s'il n'y a pas tout ça, il suffit juste de dire à Dieu, en une fraction de seconde, je veux revenir vers toi, et c'est bon, parce que l'essence du jour pardonne. Comment ça se fait que l'essence du jour pardonne? Comment ça fonctionne?
Non, c'est pas ça, c'est comment ça se fait que l'essence du jour pardonne, et après on me demande toutes ces conditions.
Exactement. Ah oui. Comment ça fonctionne? Donc là, vous voyez, on a un peu une contradiction. Et honnêtement, si on demandait à moi, à quel Kippour tu t'identifies le plus, moi je vous aurais répondu, je m'identifie plus au Kippour de la référence numéro 3. C'est vrai. Le Kippour de la référence numéro 3, ça c'est un Kippour qui
elle
me parle.
Elle est dure celle-là.
Elle est dure celle-là. Là on te parle de karcher, on te parle de soif vers Dieu, on te parle de regret, oui, on te parle de confession. Ça c'est un Kippour hard. Mais dans la référence numéro 1, on a vu clairement que même les avis les plus restrictifs disaient, bon, prends le balai, c'est suffisant. Alors je comprends pas comment ça fonctionne. Est-ce que Kippour c'est un jour qui demande énormément d'efforts de la part de l'homme? Ou est-ce que Kippour, on demande juste que tu fais preuve de bonne intention et ça marche? Alors évidemment, la réponse, on la connaît. La réponse, on la connaît, c'est que même si une personne... Alors, on aimerait qu'à Kippour, une personne fasse preuve de tous les éléments qu'on a cités dans la référence numéro 3. Ça veut dire regret, confession, etc. Mais dans les faits, on te dit que même si t'as pas fait tout ça, le fait simplement de faire preuve de bonne intention, ça suffit. Ça simplifie notre question. Comment ça se fait? Comment ça marche? Comment ça se fait que même une personne qui n'a pas fait tout ce qu'on a dit dans la référence numéro 3, qui simplement y vient, avec de la sincérité, je veux dire quand même, qui dit à Dieu, écoute, Dieu, je vais revenir. Je veux revenir. Je veux revenir. Il dit, c'est bon, ça passe.
Ça, c'est sûr.
Mais attends, mais c'est un problème. Parce que comment ça fonctionne? Comment ça se fait qu'on n'exige pas d'avoir tous ces niveaux-là? On n'exige pas d'avoir le nettoyage, le regret, la confession, etc., la soif. Bref, c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Comme la question de M. Benita. Il dit, si c'est pas nécessaire, pourquoi tu m'en parles? Et si c'est nécessaire, pourquoi tu me dis que même sans ça, ça marche? Comment ça fonctionne? Donc de là on comprend qu'en vérité, il y a plusieurs niveaux dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est très puissant ce que le Rabbi va expliquer ici. Ça, c'est la base du cours. Et ça, c'est la base de la Teshuvah selon la Chassidut qu'on va expliquer dans la référence numéro 4. Dans la relation qu'on a avec Dieu, il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Et en fait, selon le niveau dans lequel on se trouve, la Teshuvah va être différente. Mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant. On va prendre la référence numéro 4. Entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, il y a trois niveaux de relation. D'accord? 1, 2 et 3. A, B et C. On y va. Le premier niveau. Akesher imakadosh baruch hu. Le premier niveau, c'est le niveau basique. C'est le lien avec Akadosh baruch hu qui est opéré à l'yede zé par le fait chez Yehudi mekayem et mitzvotav par le fait qu'un juif accomplit les mitzvot venose ol malchut shamaim alav et qu'il accepte la soumission, donc qu'il est soumis au joug de la royauté divine. Ça veut dire en d'autres termes, si je vous pose la question maintenant, comment on fait pour s'attacher à Dieu? C'est vrai? En quoi Dieu est ton Dieu? En quoi tu es son sujet, d'accord? En quoi Dieu est ton Dieu? Le niveau basique, Dieu est mon Dieu parce qu'il m'a donné des ordres et je les ai respectés. Je les ai respectés, je suis son sujet. Je ne les respecte pas, je ne suis pas son sujet. Ça, c'est le niveau A. Alors, effectivement, une relation avec Dieu qui dépend du niveau A, dépend de l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire, tu as accompli les mitzvot.
Tu es attaché.
Tant mieux, tu es attaché. Tu es un sujet du roi. Tu t'es révolté contre le roi, tu n'es plus un sujet du roi.
On parle d'obéissance.
Donc tu t'es révolté contre le roi, donc le roi fera ta peau. Aura ta peau. Ouais. Ah oui. Ça, c'est niveau A.
C'est la soumission.
Oui, c'est la soumission. La soumission, c'est binaire. Ou tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux dire, oui, mais tu comprends, je l'avais, mais je voulais. Non, pas. T'as fait ou t'as pas fait? T'as fait? Azeltov, t'as pas fait? Dehors. Ça, c'est niveau A. C'est un niveau A, c'est un niveau dans lequel la relation avec Dieu est dépendante de l'accomplissement et de l'accomplissement et du respect, d'accord? De ce qu'il m'a dit. Je dois écouter ce qu'il m'a dit. Je dois obtempérer. Si je tempère, tant mieux. Je tempère pas, tant pis. Et effectivement, c'est comme ça qu'on réfléchit toute l'année. C'est-à-dire toute l'année, on me dit, voilà, tu feras la volonté de Dieu, il y aura la récolte en ton champ. Tu feras pas la volonté de Dieu, il y aura pas la récolte en ton champ. Ça veut dire que la récolte en ton champ, la relation que tu as avec Dieu, dépend exclusivement de l'obtempération que tu vas avoir à ses lois. Est-ce que tu écoutes ou tu n'écoutes pas? Ça, c'est niveau A. D'accord. Donc effectivement, par rapport à ce niveau A, bah, si t'as gaffé, c'est très compliqué à revenir. Tu comprends? Ça veut dire que par rapport au niveau A, quand tu dis que la relation que tu as avec Dieu dépend de la soumission que tu as envers lui, si pendant un an t'as fait le zouave, t'as fait le malin, et t'as montré que t'avais aucune soumission à Kadosh Baruch Hu, t'as intérêt à faire preuve de beaucoup beaucoup de volonté pour lui montrer que j'ai changé. Parce que le roi, tu comprends, il dit bon, t'as changé. Je suis pas sûr que t'as changé. Moi. Montre-moi que t'as changé. Montre-moi que tu vas être soumis à moi maintenant. Montre-moi que t'es soumis. Montre-moi que tu deviens religieux. Montre-moi que tu vas écouter mes lois maintenant. Que c'est moi le patron. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je fais une avéra, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il m'a demandé de faire quelque chose. Moi, j'ai pas envie de faire. Donc il y a une confrontation directe entre la volonté de Dieu et ma volonté. Lorsque je fais une avéra, j'ai fait passer ma volonté avant la volonté de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, j'ai peut-être pas pensé à ça directement, mais c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a dit, fais ci. Moi, j'ai dit, je veux faire ça, et c'est moi qui ai eu raison.
Donc là, on parle d'intentionnel.
Exactement. Oui. Donc ça veut dire que là, on a un premier niveau. Niveau A, la relation avec Dieu qui dépend de la soumission envers Dieu. Tu es soumis envers Dieu, t'es attaché à lui. Tu n'es pas soumis envers Dieu, t'es pas attaché à lui.
Alors pourquoi moi je m'attache pas à Béanassi là?
Attendez. Monsieur Benita, heureusement qu'on s'arrête pas au niveau A, parce que si on s'arrête au niveau A, chlète.
Après tout, pourquoi pas?
Comprenez, on a un vrai problème. Parce que si notre relation avec Dieu dépendait, était cartésienne comme le niveau A, ça veut dire, t'es soumis, tant mieux, t'es pas soumis, tant pis. Et le jour où tu veux revenir, prouve-nous que t'es réellement soumis. Hanoun vera Rome.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas un imbécile celui qui a dit ça.
Non mais attends, monsieur Benita, c'est trois niveaux.
Il faut me laisser
avancer, monsieur Benita. Vous savez, monsieur Benita, après le A, il y a un B. Oui, et après le B, il y a un C.
Oui, hein? Enfin, moi, je m'arrêterai.
Ah, vous êtes B, Benita. Alors, on y va. Alors. Ok. Alors, on y va.
Il y a même le petit B aussi.
Ah, attendez. Maintenant, le B.
Grand B, petit B.
Maintenant, deuxième niveau. Gam l'achare shavar atzivu yakadosh baruch hu vesir malav ulo. Deuxième niveau. C'est que même si une personne effectivement malheureusement a transgressé un ordre divin, vesir me'alav ulo, et qu'il a retiré malheureusement le joug de Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas écouté ce que Dieu a dit, adavar metzerlo metzaro, ça lui fait de la peine. Ça lui fait de la peine. Il dit mais quand même, je veux revenir. Acho se tshuva, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Ça veut dire comme ça. Tu as le niveau A, c'est cartésien. C'est tu es soumis ou t'es pas soumis? T'es soumis, tant mieux. T'es pas soumis, dégage. Niveau B, et tu comprends, la vie n'est pas si simple que ça. Dans la vie, des fois, on peut faire des bêtises, mais on peut aussi revenir. Donc, je peux dire au roi, je dis, écoutez, c'est votre majesté, d'accord, votre honneur. C'est vrai que j'ai fait des bêtises, et je l'admets que j'ai fait des bêtises. Mais vraiment, je vous montre que je suis sincère. Je veux revenir. Donc, donnez-moi une chance. Donc là, quand tu demandes au roi de te donner une chance, tu fais appel à un niveau plus profond chez le roi. Le niveau carré chez le roi, il dit, écoute, je te donne une chance. Il y a deux options. T'es fidèle à moi ou t'es pas fidèle à moi? T'es fidèle à moi, tant mieux. T'es pas fidèle à moi, on te coupe ta tête. Maintenant, il y a un niveau B. Niveau B, on lui dit, écoute, ne me coupe pas la tête tout de suite. Essaye de voir profondément. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond chez moi et de plus profond chez toi qui prouve qu'on peut aller au-delà de ce qu'on pense? Que même si effectivement je ne suis pas comporté comme il faut, mais je veux revenir vers toi. Et toi, regarde dans toi, votre majesté, regardez en vous. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau en vous, dans vous, profondément, dans lequel vous pouvez m'accepter? Même si je ne mérite pas vraiment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un niveau dans lequel vous pouvez m'accepter? Je veux revenir.
Il y a moyen de discuter.
Mais attention, dans le niveau B, le roi va t'accepter, va dire, bon, tu sais quoi, tu m'as touché. Dans ma tête, si je réfléchis avec ma tête, je te coupe ta tête. Mais t'as touché mon cœur. T'as touché mon cœur, tu m'as montré que t'es sincère, t'as touché mon cœur. Donc tu sais quoi? Je vais te donner une chance. Très bien, niveau B. Mais attention, pour toucher le cœur du roi,
il faut y aller,
il faut se mettre debout, ça veut dire il faut vraiment faire preuve de bonnes intentions, vraiment prouver que j'ai regretté. Et ça aussi, c'est pas gagné. C'est un niveau A, on discute pas. T'as fait, tu reçois, t'as pas fait, tu dégages, on te coupe la tête. Il n'y a pas peut-être oui ou non.
C'est la rigueur.
Tu t'es révolté contre le roi, on te coupe la tête. C'est tout. Ça veut dire que celui qui s'est rebellé contre le roi, vous croyez qu'il regrette, pas? Et qui, avant que le coup d'état, non, mais attendez, mais il n'y a pas attendez, on te coupe la tête, baba. Seulement voilà. Seulement, il y a le niveau B, dans lequel il va dire, attendez, je veux parler au roi. Il va parler au roi, il va lui dire une phrase comme ça. Il dit, donnez-moi une chance, je vous promets, j'avais ci, j'avais ça. Il va toucher le roi dans son cœur. Bon. S'il arrive bien parler au roi, il va en prendre. Mais il faut quand même qu'il soit réellement sincère et qu'il arrive à parler au roi. Et s'il n'arrive pas à le faire, ça marche pas. Heureusement qu'on ne dépend pas de ça non plus. Parce que si on dépendait de ça, on aurait dû avoir un kippour extrêmement sincère. D'accord? Et là, il y a un troisième niveau. Troisième niveau, c'est quoi? C'est l'essence de l'âme juive elle-même qui est liée à l'essence de Dieu. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si je vous pose la question, quelle relation vous avez avec votre enfant, votre fils? Est-ce que c'est une relation qui est conditionnée par rapport à son comportement? Par rapport à ses notes?
Non.
D'accord?
Non.
Alors j'ai envie de dire non, mais dans les faits, c'est oui. Dans les faits, évidemment. Dans les faits, la relation qu'on a avec nos enfants est conditionnée. Ça veut dire que dans les faits, on la conditionne. Seulement, arrive un niveau, que j'appellerais le niveau C, dans lequel un père, il arrive à faire appel à un niveau en lui, dans lequel la relation qu'il a avec son fils n'est pas conditionnée. C'est-à-dire, peu importe.
C'est viscéral.
Il peut être le plus grand mécréant de la terre, Hazé Shalom, d'accord? C'est mon essence qui est liée à ton essence. Tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. Et là, quand t'arrives à toucher cette fibre, peu importe le comportement du père et peu importe le comportement du fils, on est au-delà de tout. C'est cette fibre qui nous intéresse. Là, je vais reprendre maintenant, on va essayer d'appliquer par rapport à Kippour. Si on limitait notre relation avec Dieu au niveau A,
très mal.
Dieu préserve, aucun de nous aurait aucune chance de survie. Ah oui, parce que qui n'a pas fauté? Et vous savez, quand il suffit de se révolter même une fois contre le roi, ça même si t'as accompli mille demandes du roi, mais qu'une demande t'as pas fait, le roi il te coupe la tête, t'en discute pas. C'est un roi, c'est pas un président. C'est pas un policier, c'est un roi.
Ils sont tous liés.
Attendez. Donc le niveau A, c'est une relation qui est liée, c'est une relation qui est très carrée, très logique et qui suit ce qui se passe, qui suit les faits. Donc si on avait une relation avec Dieu qui était uniquement dépendante de ce qu'on fait, on n'aurait aucune chance. Alors Dieu était gentil avec nous. Il nous a donné la possibilité de faire teshuva toute l'année. Sauf que la teshuva de toute l'année, c'est niveau B. Ça veut dire si tu fais preuve de très bonnes intentions, de grande sincérité, que tu montres vraiment que tu veux revenir, là tu as touché le cœur du roi, il aurait dit bon c'est bon je te prends. Mais il faut quand même faire preuve de grande sincérité. Ça, c'est le niveau B. Et là, il y a le niveau C. Niveau C, c'est Kippour. Dans le niveau C, Dieu dit, écoute, tu sais quoi? Au final, tout compte fait. Tu es mon fils, je suis ton père. Donc ça, c'est au-delà de tout. L'essence du juif est liée à l'essence de Dieu. Et ça, cette relation est une relation qui n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Qui n'est pas limitée par quoi que ce soit. C'est-à-dire que même un juif qui n'a rien fait toute l'année, il a cette fibre. Et là, c'est là qu'arrive la discussion entre Rabbi Udanassi et Rahamim. Parce que, étant donné qu'on arrive au niveau C, là, c'est un niveau, vous comprenez, qui n'est pas conditionné par quoi que ce soit. C'est là qu'arrive la discussion entre Rabbi Udanassi et Rahamim. Rabbi Udanassi te dit, étant donné qu'on arrive au niveau C, un niveau qui n'est pas conditionné par quoi que ce soit, donc tu n'as pas besoin de faire aucun effort. Dieu est ton père, tu es son fils, quoi qu'il arrive. Donc, tu n'as rien besoin de faire. C'est Rabbi Udanassi. Rahamim disent, on ne peut pas dire ça. Il faut quand même que tu montres à ton père, que tu te rappelles que tu es son père, que tu es son fils. C'est tout ce qu'on te demande. Ça veut dire que tu peux pas venir dire le fils il reste comme il est, un cancre, d'accord? Il oublie qu'il a un père, et le père il vient et dit ça y est, je prends tout pour moi, je paye tout. Rabbi Danassi, Rahamim, ils te disent, il faut quand même que le fils il montre à son père, il lui dit, juste il dit un mot, papa. Papa. Voilà, c'est tout. Juste dis un mot, papa. Toute l'année, il fait le cancre, il traite son père de tous les noms, il marche dessus, il crache dessus, etc. Le père dit, d'accord, je prends. D'accord, je prends, pas de problème. Je reste ton père, tu restes mon fils. Mais pour que j'arrive à faire appel à un niveau qui est au-dessus de tout, qui est inconditionnel, qui ne dépend d'aucune chose, d'aucune condition, et dans lequel tu es mon fils et je suis ton père, je demande juste une chose. Montre-moi que tu veux revenir vers moi. Dis-moi un mot, dis-moi papa. C'est tout. Tu m'as dit papa, c'est bon, je prends tout.
Ah, mais il y a la suite avec le
papa. Ah, non, bah voilà, ça veut dire que la suite, mais c'est ça le niveau de Kippour. L'essence du jour de Kippour, c'est quoi l'essence du jour de Kippour? C'est qu'on te dit que le jour de Kippour, il suffit de dire papa, et c'est bon.
Mais toute l'année, je lui dis.
Non, toute l'année, ça marche pas. Toute l'année, t'es pas en niveau C. Toute l'année, t'es en niveau B.
Donc ça veut dire qu'on a une connexion spécifique.
Évidemment, voilà, t'as tout compris, Razak. Eh oui, l'essence du jour, ça, l'essence du jour. Toute l'année, c'est soit A, soit B. C'est-à-dire, normalement, c'est A, tu te comportes mal, on te prend sur la tête, et quand tu fais tes chouvas, tu touches le cœur de Dieu, entre guillemets, donc tu dis, bon, c'est bon, je te prends. Mais il faut toucher le cœur de Dieu, il faut être sincère, il faut se lever de bonheur. Exactement. Le jour de Kippour, c'est une autre relation qu'il y a avec Dieu. C'est une relation dans laquelle Dieu dit, écoute, j'oublie ce que tu as fait. Je me pose pas la question, qu'est-ce que tu as fait? Je me pose la question, qui tu es et qui je suis. Pas qu'est-ce que tu as fait, qui tu es. Qui tu es, t'es mon fils. Ah, t'es mon fils, c'est fini, c'est mon fils. Seulement, je te demande une chose. Dis-moi juste papa. Rappelle-toi que je suis ton père. C'est tout. Tu te rappelles, je suis ton père. Je m'occupe du reste, je prends tout. D'accord? Je nettoie tout. D'accord? Je nettoie tout. Je remets le compteur à zéro.
Non, ça plus, mon père, pourquoi ma
tueur? D'accord? Mais on reste à zéro.
Oui.
Hein, voilà. Ça, c'est que Kippour. Aseret et Metshuva, si tu veux, non, c'est intéressant ta question. Aseret et Metshuva, c'est un jour dans lequel Dieu te facilite le niveau B. Il dit, écoute, montre-moi que t'es sincère, t'es très sincère, et bon, même si t'es pas ultra sincère, je te passe. Mais il faut quand même revenir. Il faut que tu montres que tu t'accroches. Mais dès que t'arrives à Kippour, tu lui dis, écoute, la vérité, même si tu n'es pas accroché grave, montre-moi juste que tu veux revenir.
Pour faire exagérément les choses, moi je peux faire les 400 coups, les 363
oui, et sauf
les
que...
Les deux jours, je me connecte,
je vais t'expliquer le problème. Il y a juste un problème. Tu as raison, j'ai une bonne question. Sauf qu'il y a un problème. La Gemara nous dit, celui qui faute en comptant sur la teshuva, on ne le laisse pas faire teshuva.
Celui qui, pardon?
Celui qui faute en comptant sur la teshuva, on ne le laisse pas faire teshuva, on lui met le bâton dans les roues. Ça veut dire qu'on, qu'on te laisse pas dire papa.
Attends, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, c'est mon père.
Oui, mais on te laissera pas dire papa, donc ça passera pas. Dieu, tu peux forcer. Si tu forces, j'ai attendu. Je parle à mon père. Bon, mais il faudra casser des murs pour régler ça. D'accord.
Pardonne-moi. Juste pour le point B.
Oui.
Moi, je comprends aussi quelque chose. On dit, celui qui a transgressé les commandements en est confus et penaud au point de lui inspirer la
tichoua. Oui.
Ça veut dire qu'en fait, on est de toute façon, dans ce stade-là,
non,
dérangé ou...
Au niveau B, il faut être dérangé par les fautes.
Il faut ou oui. On l'est de toute façon.
Ah non. Au niveau B, si t'es pas dérangé
c'est
par
c'est
les fautes...
C'est le regret.
Voilà, c'est le regret. Le niveau B, on te dit, je fais tichoua.
Mais on est conçu de cette manière. C'est-à-dire que c'est en nous, cette histoire de regret.
Non, pas du tout. Non. C'est un travail, ça. C'est un travail sur soi. C'est pas automatique. C'est pas automatique du tout, ça.
On l'a pas
et c'est ça, en vérité, la différence qu'il y a entre la référence numéro 1 et la référence numéro 3. C'est ça la réponse. C'est que dans la référence numéro 1, alors, je vais commencer par la 3. Dans la référence numéro 3, quand on nous parlait d'une teshuva dans laquelle il y a une soif, il y a un nettoyage, il y a un regret, il y a une confession, ça c'est un niveau B. Dans lequel il y a un effort considérable à faire, une métamorphose à faire. Mais la référence numéro 1, on parlait du niveau C. Quand tu arrives à Kippour, c'est un autre niveau. On va lire dans les mots. Vous allez voir, c'est magnifique, les mots du Rabbi. Il y a un troisième niveau dans la relation avec Dieu, qui est l'essence de l'âme juive, qui est elle-même liée à l'essence de Dieu. Ce lien n'est soumis à aucune limite. On peut même pas le limiter à une expression spécifique, de dire l'attachement à Dieu et si tu es religieux. Non, parce que si tu dis ça, c'est-à-dire que tu le conditionnes. Là, il y a un attachement avec Dieu qui n'est même pas conditionné par la religiosité. Je continue. Va filoupitnoa teshuva. Et ce lien qui est avec Dieu n'est même pas conditionné par la nécessité de faire teshuva. Ça veut dire, c'est comme un père avec un fils. Dieu n'est pas mon Dieu parce que je reviens vers lui. Dieu n'est pas mon Dieu parce que je fais ses mitzvot. Dieu est mon Dieu parce que c'est mon Dieu. Point barre. Veze kayam bechol echad mi'israel beteva. Et ce lien qui est avec Dieu se trouve chez chaque juif par nature. Chaque juif a ce lien. Seulement le problème c'est que c'est un lien qui est très profond en nous, qu'on doit ressortir. Keshem sheit kashrut zo enanot seret aleda avoda. De la même façon que cet attachement de niveau C n'est pas créé par un travail. C'est pas créé par un travail, c'est automatique. Il n'y a pas un travail à faire pour ça. Car gam yevchar l'achishal et davonot. Cet attachement de niveau C avec Akadosh Baruch Hu, tu peux pas l'affaiblir avec les fautes. L'attachement de niveau A avec Dieu, qui est conditionné par les mitzvot, tu peux l'affaiblir avec les fautes. L'attachement de niveau B avec Dieu, tu peux l'affaiblir avec les fautes. Tu fais pas de tchouva, il l'affaiblit. Mais l'attachement de niveau C, tu peux pas l'affaiblir avec les fautes. Aucune faute ne peut affaiblir, même la faute la plus grave au monde. Même celui qui va se convertir, Chas v'Shalom. C'est pas possible, tu peux pas. Tu restes mon père, tu restes ton fils.
Mais quand on se convertit,
baiser ou...
est-ce qu'on peut faire tes choses?
Évidemment. Il s'est converti, c'est-à-dire quoi?
On se convertit à une autre religion et on veut revenir.
C'est Benita, c'est comme un fils qui dit à son père, tu n'es plus mon père.
Ouais. Il peut dire ce qu'il veut.
Bah oui, mais il peut revenir.
Il n'était plus mon père, j'ai choisi un nouveau père.
Bah, je regrette, oui, j'ai regretté.
Ou une mère, bon, on va s'arrêter là. Alors.
Donc, effectivement, il peut le renier et puis après se rendre compte que...
C'est Benita.
Oui, monsieur.
Quelqu'un qui dit, Dieu, tu n'es plus mon père. J'ai un nouveau père et une nouvelle mère.
Oui.
Ça change pas. Tu peux aller à 15 églises et dire t'as 15 nouveaux pères et 15 nouvelles mères.
C'est
pas possible. Dieu reste ton père. Vezeu sheitzumo shel yom mechaper. Ça c'est le sens que l'essence du jour apporte l'expiation. De beyom akipurim mechaper mitgal bechol echad miYisrael, que le jour de Kippour se dévoile chez chacun, l'essence, la relation entre l'essence de mon âme avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que même Dieu, il y a plusieurs niveaux, même Kaviachol, si on peut dire, même chez Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs niveaux de dévoilement. Il y a l'essence de Dieu, il y a les dévoilements de Dieu. Dans le dévoilement de Dieu, tu comprends? Bon, et les mitzvot. Tu fais les mitzvot, tu t'attaches à Dieu. Tu fais pas les mitzvot, tu te sépares de Dieu. Mais ça, c'est uniquement au niveau de l'expression de Dieu. Mais il y a un niveau encore plus fort que l'expression de Dieu, qui est l'essence de Dieu. Et pareil, il y a un niveau qui s'appelle l'expression de mon âme, qui dépend des mitzvot. Que si je fais des mitzvot, mon âme s'exprime bien. Si je fais des averot, mon âme s'exprime mal. Ça, c'est que de l'expression. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de l'expression. C'est l'essence. L'essence, c'est-à-dire l'essence qui est au fond de mon âme, et ce qui est pareil, l'essence de Dieu, ce n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Tu peux avoir un juif, qu'on appelle un juif de Kippour, qui n'a rien fait toute l'année, il a le niveau C. Donc, il est revenu vers Dieu.
De fait.
Donc, automatiquement. Seulement, on lui demande juste une chose. On lui dit juste, montre-nous que tu veux revenir, c'est tout. Dis papa, et c'est suffisant.
Enfin, c'est...
Seulement, évidemment, j'espère qu'on ne sera pas des...
C'est facile, ce truc-là.
Non, mais justement...
Mais c'est Benita, c'est pour ça que je dis...
Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire.
Non, moi, je pense que tout le monde peut faire ça. C'est pour ça que je dis, si tu as une personne qui a lu tous les textes, qui a chanté tous les ha, ata, nous les, fanecha, mais qui n'a pas compris qu'il est en train de dire, nous avons fauté devant toi,
oui.
Je parle de moi et de mes fautes, c'est moi qui a fauté,
d'accord.
C'est moi qui dois revenir... Tant que t'as pas compris ça, t'as à côté de la blague.
Voilà, maintenant vous nous le dites, on va le faire demain.
Oui.
Voilà.
7h demain matin.
Ah oui.
Mais ça a commencé depuis longtemps.
Attendez, hein. J'ai l'impression de demain un petit peu, la gorge un peu.
Bon, moi je suis A. Hein.
Ah, monsieur Benita, je ne souhaite pas d'être A parce que A, on passe pas.
Donne-lui l'adresse, monsieur Benita.
C'est 7h.
Oui, allez-y.
Même entre le père et le fils. Il a été contracté dès le départ avec la Brit-Mila.
Oui, mais
c'est une alliance.
Regardez.
Alors maintenant, cette essence même, ce lien optimal, suprême, avec l'atmosphère de Kippour, il va être à son paroxysme. Et c'est là où le retour.
Mais c'est ça la question. Regardez, je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un, un père qui n'arrête pas de faire des remontrances à son fils, parce que son fils, c'est vraiment, il se comporte très 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 mal. Et le père lui dit, je te connais plus, sors de ma maison, je veux plus te voir, t'es un voyou, etc. Et imaginons que le fils, il a fait toutes les bêtises au monde, et que maintenant il est en prison. Et qu'on lui apprend que le fils, il a fait toutes les bêtises au monde. Ah. Et que le père, maintenant, il va aller voir son fils en prison. On va dire, voilà, ton fils, il est en prison, Dieu préserve. Il va le voir. D'accord? Juste avant la potence, allez, tiens, je vous fais la totale. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans le regard entre le père et le fils à ce moment-là? Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que.
Des sentiments très forts qui vont passer.
Exactement. Mais quels sentiments vont passer? Des sentiments qui vont au-delà de ce qui s'est passé. Des sentiments qui ont, quoi qu'il arrive, tu es mon père, je suis ton fils. C'est ça ce qui se passe à Kippour. Maintenant, la vérité, c'est qu'on aimerait quand même que notre relation avec Dieu ne soit pas dépendante que du niveau C. Parce que c'est grave si elle dépend que du niveau C. Si elle dépend que du niveau C, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il reste que, l'essence, quelque chose que personne ne peut toucher. Évidemment, c'est pour ça qu'on essaie d'être des bons juifs. Être un bon juif, ça veut dire essayer d'être en niveau A, et si le niveau A n'a pas marché, au moins niveau B. C'est-à-dire essayer de montrer qu'on veut revenir. Mais on doit quand même être convaincu que même si on n'a pas le niveau, même si on n'a pas le niveau A, et même si on n'a pas le niveau B, c'est-à-dire tu es un juif, il veut même pas revenir à Kippour. Il dit, je compte pas arrêter mon comportement. Mais juste, il dit, papa. Papa, juste, il a eu une fraction de pensée de Teshuvah dans sa tête, dans laquelle il veut dire, papa, je pense à toi et ce qui se passe ne va pas. Voilà. Une fraction de seconde. Celui qui fait pas, attention. Celui qui fait pas Kippour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur toute la avéra qu'il a fait dans l'année, on lui pardonne. Mais sur la avéra de Kippour même, on peut pas lui pardonner. C'est ce qu'il explique dans la note numéro 6, mais qu'on n'a pas le temps de faire. Il dit parce que, tu comprends, Kippour, c'est un défenseur. Or, il ne peut pas devenir accusateur. C'est-à-dire, si on va lui rappeler, on va te rappeler le fait que tu ne jeûnes pas à Kippour, donc automatiquement, c'est en train de t'accuser. Donc on dit, écoute, le fait que tu ne jeûnes pas à Kippour, on met ça de côté, ça on réglera après. Entre-temps, on va régler ce que tu as fait pendant toute l'année qui est passée. On demande une condition. Que même si tu manges ton jambon beurre, d'accord, tu vas le manger, bon, d'accord, à Kippour, il faut qu'au moins que quand tu manges ton jambon beurre le jour de Kippour, t'as une fraction de seconde, une pensée qui t'effleure dans la tête, qui te dit, ce qui se passe ne va pas. C'est pas normal.
Il faut que je sois culpabilisé parce que
j'ai même pas, j'ai même pas envie de dire culpabilisé. Non, c'est pas culpabilisé. Papa, papa, je me rappelle que il y a une synagogue.
Oui, mais enfin ça.
Et que c'est Kippour, c'est Kippour. Maintenant, c'est Kippour, c'est pour qui? D'accord? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour moi, alors.
Mais ça appartient à tout le monde et tout le monde peut faire ça et dire papa, et voilà, tout est effacé.
Oui, mais. Monsieur Benita, c'est comme dans la relation entre un père et un fils. C'est quand même dommage et regrettable.
Oui.
Lorsque la seule relation qui reste entre le père et le fils, c'est le niveau C. De dire que le fils et le père, ils sont à des années-lumière et que le fils est une catastrophe, mais que la seule relation qui reste, c'est que le fait que bon, t'es mon père.
C'est
magnifique, mais on aimerait ne pas en arriver là. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'on essaye à Kippour, c'est aussi faire le niveau B. Et c'est ça le but des prières.
C'est pour ça que j'ai dit, ils sont tous liés.
Exactement. Ça veut dire, le C, il est déjà là. Le C, il est déjà là. Mais à part le C, on espère avoir aussi le B. De dire bon, en plus que l'essence du jour t'attache, est-ce que tu peux pas quand même toi aussi de ton côté montrer que tu regrettes, que tu nettoies, que tu fais des confessions, etc. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai pas fait tout ça, là, Dieu ne me calcule pas. Non. Même si tu n'as pas fait le niveau B, le niveau C reste là. Le niveau C reste là, qui est un niveau dans lequel ben, l'essence du jour te pardonne. C'est comme ça.
C'est à l'image d'une corde tressée. Et donc, tu as les trois. Et tu peux craquer un lien, un deuxième lien, il restera
toujours celui-là, qui est indestructible. Le lien de niveau C avec Akadosh Baruch Hu est un lien qui est indestructible. C'est-à-dire qu'il peut faire toutes les bêtises possibles et imaginables, c'est un lien qui est indestructible.
C'est ton patrimoine génétique.
Mais à la fin, quand le fils...
Ton gène.
Bon, c'est qu'il n'y a plus de chance. Avec Absalom et David.
C'est pas...
Non, mais voilà. Il a tout fait pour ne pas qu'il meure.
On ne peut pas... Et après, il a regretté. On ne peut pas couper le C. C'est pas possible.
On peut pas couper
le sein. On peut avoir des regrets. On peut en vouloir à son fils qui a fait des choses très 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 graves. Tu peux en vouloir comme tu veux. Mais à un moment, tu restes son père. C'est comme ça. Et t'as ce niveau de relation qui est au-delà de tout. Mais attention, ça c'est que Kippour. Ce niveau C. Alors il y a des gens bémet qui arrivent. Comme, par exemple, il y a des gens dans la Gemara, de gens qui sont arrivés pendant l'année avec une teshuva exceptionnelle à toucher le niveau C. Ça veut dire, ils ont réussi à faire appel par l'essence de leur âme, à appeler l'essence de Dieu. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, toute l'année comme ça, même aujourd'hui, je dis, bon, l'essence de mon âme. Comment tu fais l'essence de mon âme? T'arrives pas. En général, c'est que l'expression de mon âme que je connais. Je connais pas l'essence de mon âme. Mais à Kippour, c'est l'essence de mon âme qui parle directement avec Akadosh Baruch
Hu. C'est quoi l'essence de mon âme?
C'est la Neshama? Non, c'est même dans mon âme, il y a cinq niveaux. C'est justement, C'est justement, on va terminer avec la référence numéro 8. Je suis désolé, on va dépasser les 5 minutes, d'accord? On va s'arrêter là. Je vais passer à la référence numéro 8. Yom HaKippurim ou Yom HaYechidi Bashana. Le jour de Kippour, c'est le seul jour dans l'année, chez Boyashriv Ramesh Tfilot, dans lequel nous avons l'obligation de faire 5 prières. D'habitude, le maximum de prières qu'il y a, c'est 4. 3, et le jour de Shabbat et les fêtes, 4, plus Moussaf. D'accord? Ça fait 4. Mais à Kippour, nous avons 4 prières avec le Moussaf, plus la Nehila qui fait le 5e. Ah oui, Nehila, c'est une prière. Il y a la Amida. D'accord? Il y a la Amida, il y a la Chazara, il y a la Total. Pourquoi 5? Les Tunisiens vont être contents. Chamesh Tfilot Elou, c'est 5 Tfilot, Rabotai, on termine. Em ke neget Chamesh Madrigot Aneshama.
C'est
les 5 niveaux de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. En général, toute l'année, on arrive à faire appel seulement à 4 niveaux. Le 4e niveau, c'est le niveau de la Teshuvah classique, dans lequel je décide de revenir vers Dieu. Mais en général, on ne fait jamais appel au 5e niveau. Le niveau de Yechida. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont tellement à la Nehila? C'est un moment tellement fort à Kippour. Non, on peut dire, bon, parce que c'est le moment où on approche de la fin, etc. C'est vrai. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Nehila? La prière la plus forte aurait dû être la première prière, le Kol Nidré.
La
prière du soir, oui, mais je comprends la clôture. Mais normalement, dans les événements, normalement, le début c'est plus fort. C'est là que ça décolle, pac! Après, à la fin, on a déjà marre, on veut manger. Comment ça se fait que, comment ça se fait qu'à Kippour, le moment le plus fort, c'est Nehila?
Dans un événement, c'est toujours le début et la fin.
Qui alors, on va voir pourquoi. Non, mais là, la fin est beaucoup plus forte que le début.
Parce qu'il précède le chauffard.
Ah, non, pas du tout. Regardez. Parce qu'en vérité, Bitfila Hamishit, c'est une question logique, je suppose. C'est-à-dire que, finalement, prenez par exemple l'année. Dans l'année, on a le début et la fin, mais la fin de l'année, le dernier jour de l'année, bon, c'était un jour sérieux, mais c'était pas un jour le plus fort de l'année. Non, je suis désolé. On approchait de la fin. Donc, de la même façon, pourquoi Nehila, c'est le moment le plus fort? C'est la fin. Seulement, parce que la prière de Nehila correspond au 5e niveau de la Neshama. Bitfila Hamishi, dans la 5e prière de Filat Nehila, Mitgalet Prinat Yechida Sheba Neshama. Lorsqu'on fait la 5e prière, la Tfila de Nehila, se révèle le niveau de Yechida. C'est quoi le niveau de Yechida? Yechida en hébreu, ça veut dire unique. C'est un niveau dans lequel la Neshama, elle parle à Dieu, elle lui dit, écoute, je suis unique, tu es unique. Essence, essence. C'est ça l'essence de la Neshama. Et ça, l'essence de la Neshama, tu peux l'avoir tout qui pour. Et c'est surtout pendant la Nehila. C'est là, pendant la Nehila, que l'essence de ma Neshama parle à l'essence de Dieu. C'est pour ça que c'est un moment d'une extrême puissance. Et c'est pour ça que pendant la Nehila, les portes du Echal sont ouvertes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul. On ne dit pas on ouvre le Echal, on ferme le Echal. D'habitude, on ouvre, c'est compliqué. C'est-à-dire, on ouvre le Echal, on referme, on rouvre, on referme. Mais là, la Nehila, il n'y a pas de calcul. On ouvre et ça reste ouvert, c'est ouvert. Open, open. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au niveau de quand on fait la 5e tefila, la tefila de la Nehila, c'est le niveau, le 5e niveau de la Neshama, telle qu'elle est attachée avec Dieu, quoi qu'il arrive. Vezeu pirush Nehila. Et ça, c'est le sens de Nehila. Nehila, ça veut dire quoi? Nehila, en hébreu, ça veut dire clôture. Mais ça veut dire seulement clôture du jour. Clôture dans le sens fermé. Ça veut dire quoi? Beota sha'a nin alim kol hasha'arim. À cette heure-ci, quand on fait Nehila, on ferme toutes les portes. V'en manichim le af echad bikanes lesham. Pas qu'on ferme la porte de Kippour. Ça veut dire que Dieu, il te met dans la pièce et il dit maintenant on ferme la porte et je laisse personne rentrer. Même pas tes fautes. Même pas le Yetzarara. Même pas le Satan. Je ferme les portes et il n'y a que toi et moi. Il n'y a rien. Il n'y a pas ton passé. Il n'y a rien. Il n'y a que toi et moi. Sham, nimtsaim, Israël, levadam, imatsumuto idbarer. Lorsqu'on fait Nehila, on se trouve seul avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est mon essence qui est seule avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu.
C'est ça la force de Nehila.
Ça, c'est la force de Nehila. Ça, c'est la force. Alors justement, il y a des juifs qui viennent que pour Nehila. Ça veut dire. Bien sûr qu'ils le savent. Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour rien. Ils sentent à ce moment-là. Bien sûr qu'ils le. Bah, concrètement. Pourquoi ils viennent? Moi, c'est qu'ils viennent à la Nehila. Pourquoi ils viennent à la Nehila? Qu'est-ce qu'ils ont perdu à la Nehila?
Je ne crois pas que ce soit une histoire de savoir ou pas.
Non, non.
De le sentir.
Le sentir.
Et c'est. Quand on parle des juifs de Kippour, comme tu le dis très justement.
Il aurait dû venir au début de Kippour. Le matin. Qu'est-ce qui vient le soir? Un quart d'heure avant la fin.
C'est trop long.
Mais pourquoi il vient juste avant la fin?
Mais parce qu'il doit venir pour la fête.
Pourquoi il vient pour la fin? Pourquoi il vient pour la fin? C'est pas logique. Il a 24 heures pour venir, 26 heures pour venir, et il vient ou le matin ou au début. Pourquoi il vient à la fin quand il y a tout le monde?
Il peut passer quand il veut.
Parce que, encore une fois, parce que quand tu arrives à la Nehila, c'est directement tu tapes le niveau C. Donc là, il n'y a pas de calcul. Seulement, encore une fois, on espère ne pas être un juif comme ça. On espère d'être mieux que ça. On espère. C'est quoi mieux que ça? C'est que je dis, je ne dépends pas du niveau C, j'espère être au niveau B aussi. Ça veut dire que j'ai une teshuva qui est un peu plus élaborée. Mais attention, ça c'est à condition que je fais teshuva, que je comprenne que le jour du Kippour, je suis pas venu seulement pour demander une bonne année. Vous voyez comment l'erreur que les gens font? Les gens, ils pensent que Kippour, c'est quoi? On est là pour demander une bonne année. Mais on s'en fiche ta bonne année. C'est pas pour ça que tu vas faire Kippour. Ta bonne année, tu l'auras, t'inquiète pas. D'accord? Mais c'est pas maintenant la bonne année. Toi, tu t'occupes d'abord de te faire pardonner. Une fois que tu seras pardonné, automatiquement, tu l'auras ta bonne année. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que, et même Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, les gens, ils pensent qu'on est là, en train le jour du jugement. Mais on s'en fiche que t'es jugé. Ce qui compte, c'est que tu cours en Dieu. Si tu cours en Dieu, automatiquement, il va te juger. Et après, automatiquement, d'accord? Quand tu arrives à Kippour, ça veut dire qu'à la limite, à Kippour, c'est un jour dans lequel je pense même pas à ma parnassa, à mes besoins. Je pense pas à ça. Je pense même pas à réparer mon jugement. Je pense pas à ça. Je pense à une chose. Comment je peux m'approcher plus de Dieu? Et automatiquement, si je me connecte avec Dieu et que je vais au-delà de mes fautes et que je répare mes fautes et que je nettoie mes fautes, automatiquement, quand Dieu, avant de valider le jugement, il dit, mais c'est une nouvelle personne. Bon, c'est bon, allez, passe. Rotmenu, Chaim Tovi, Parnassa Tova, etc. Mais ça, c'est un détail. D'accord? C'est un détail. Mais ce qui compte le jour de Kippour, c'est de savoir que c'est un jour dans lequel on développe une relation avec Dieu qui est une relation qui est inconditionnelle, qui dépend de rien du tout. Et donc c'est ce qu'on va se souhaiter, que Bezrat Hashem, on va comprendre, maintenant on comprend beaucoup mieux l'essence du jour. C'est vrai, croix qui pour pardonne. Voilà, croix qui pour pardonne, parce que t'es au niveau C. Moi on te dit, bon, le niveau C il marche de toutes les façons, il marche. Mais bon, essaye quand même de faire un peu plus. Essaye quand même de faire un peu de regret, un peu de confession, un peu de nettoyage. Bon, t'as 40 jours pour ça. Même si tu t'as pas fait, le niveau C il est toujours là. Il est indestructible. Voilà. Seulement, quand plus tu as fait de niveau B, et plus, dès que le niveau, parce que le niveau C, il s'en va. Pas il s'en va, mais il arrête de se dévoiler. C'est-à-dire, dès que Kippour est terminé, celui qui a eu que le niveau C, ben, le niveau C, il s'est dévoilé, il s'est recaché, il revient, business as usual, il revient aux affaires. Par contre, attendez, celui qui a fait un effort d'introspection, de travail, etc., quand, une fois que Kippour est passé, que le C est passé, il lui reste le B. Il dit, c'est vrai que l'attachement que j'avais avec Dieu profond, bon, cet attachement, je le ressens moins, mais j'ai quand même, ce qui me reste, c'est tous les efforts que j'ai fait, et tout le travail, et la confession, et le nettoyage que j'ai fait, ça me reste. Voilà. Donc c'est pour ça, celui qui va dire que le juif de Kippour, il a rien compris à Kippour, c'est faux de parler comme ça. Il a un niveau C. Niveau C, ça vaut, il a compris l'essentiel, c'est ça l'essentiel, c'est le niveau C. Seulement, encore une fois, notre but, c'est qu'après Kippour, il reste quelque chose. C'est pour ça qu'il nous reste encore quelques jours avant Kippour, pour essayer de faire un karcher, un nettoyage interne, et de mettre de nous-mêmes, parce que finalement, c'est ça ce qui restera après Kippour. Mais, quoi qu'il en soit, dès qu'il y a un jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous juge, et il nous juge bien, et surtout, il va au-delà de toute la vérote, il développe une relation avec nous qui est au-delà de tout ça. Akadosh Baruch Hu est notre père, nous sommes son fils, quoi qu'il arrive, point barre. D'accord? Avinu, Malkenu, Akadosh Baruch Hu est notre père et notre roi. D'abord Avinu, d'abord c'est notre roi, c'est notre père. Donc, puisque c'est notre Père, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Et pour terminer, sachez que le jour de Kippour, et surtout en particulier à Neïla, on est tous comparés au Kohen Gadol. À l'époque, c'est le Kohen Gadol qui faisait le service, qui rentrait dans Saint des Saints, etc. Et que nous, on était seulement passifs, on regardait le Kohen Gadol faire. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, qui est le Kohen Gadol? Chacun de nous. Chacun de nous est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol de son petit Beth Amikdash.
C'est une grande responsabilité. Oui,
mais c'est la réalité. Ah, bien sûr, c'est la réalité. Voilà. C'est ce qui se passe à Kippour. Bah oui, mais seulement on a compris. On a compris que Dieu te donne des outils exceptionnels qui ne te donnent pas toute l'année. Notamment l'arme de catégorie C. Ça, c'est des armes, c'est la bombe atomique, celle-là. Elle est là, elle fait tout péter, celle-là. Voilà. Mais bon, il faut essayer de ne pas se suffire de celle-là, de prendre niveau B aussi, comme ça reste quelque chose en nous. Mais quoi qu'il en soit, Kadosh Baruch Hu, l'essence du jour, pardonne. On peut en comprendre beaucoup mieux l'essence du jour de Kippour. Voilà. Bien sûr, c'est pour vous.